Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on reprend nos habitudes dans Roten sans flamme. C'est un régal de passer 2 heures avec vous, 2 heures à partager notre passion du foot. Beaucoup d'actu encore aujourd'hui, donc on va enchaîner tout ça dans l'émission pendant 2 heures avec un casting de fou. Et je suis content de retrouver beaucoup de gens autour du plateau. Aujourd'hui, bah, comme d'habitude, c'est Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va, Benoît ?
Oui, un grand merci Jérôme, de ta part, de la mienne, pour tous ceux qui nous ont adressé des messages, des condoléances pour Coach Courbis.
Exactement.
Bel hommage hier que vous pouvez réécouter en podcast. Et très belle initiative de la direction d'RMC, puisque le studio dans lequel on se trouve aujourd'hui, le studio numéro 5 de ce bâtiment, s'appelle désormais le studio Roland Courbis.
Ouais.
Donc voilà, on est donc en direct du studio Roland Courbis.
Pour on cette est là. Émission. Voilà, il est avec nous. Et
exactement,
il sera tout le temps avec nous.
Toujours avec nous.
Ouais. Tant que Roten sans flamme existera, tout il sera avec moi à côté. On est avec Steve Savidan. Salut Stevie.
Salut tout le monde, salut mon GG, j'espère que tu vas bien. Tous mes vœux de vive voix. Hein,
ah bah oui.
Par petit message.
Exactement.
Donc voilà.
Salut Stevie. Pareil.
On attaque au taquet 2026.
Ah, mes vœux de bonheur aussi, Stevie, à toi.
Santé
et à ta petite
après
famille.
Le reste, on se démerde. Hein.
Ouais, exactement. On est avec le dinosaure, on est content de le retrouver. Jean-Michel Larquet, salut Jean-Mi.
Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour. Enfin, les véritables amis, j'espère.
Oui, j'espère.
Le mec d'entrée s'embrouille.
Ouais. Ah oui.
Mais oui, on
est. On fait partie des véritables amis alors.
Ouais. Après,
connaissance,
on verra sur la durée. On va voir sur la durée. On va voir.
C'est pas sûr encore.
Sur la durée, ça fait déjà un bout de temps.
Déjà sur la durée, ils sont pas dans les macarons.
Ouais. On te traîne, hein, Jean-Michel.
Est-ce que Jérôme fait partie de tes véritables amis, Jean-Michel?
Après les verres, oui.
Rigoler à la blague de Steve, quand même.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Oh, bah ouais. La durée, ils sont pas dans les macarons.
Bon, ah, excellent.
Excellent, ça commence bien.
Ah ouais, ça part au taquet. Voilà.
Bah, tu sais, quand tu suis au Moscato Show, tu gardes pendant 2-3 minutes, tu sais, c'est l'énergie, tu vois.
Steve, on t'a dit pas de blagues comme ça.
C'est vrai. Voilà, putain, je suis en train de taper sur la main là.
Les audiences sont bonnes.
Ouais.
Alors, va pas me plomber tout ça en 2026. Déjà, on vous remercie parce que les audiences sont tombées.
Plomber tout ça avec des macarons.
Et on vous remercie vraiment. Tous les auditeurs parce que et auditrices bien sûr, on a cartonné et c'est bien, on est
exactement
content.
Le Paris Saint-Germain est éliminé de la Coupe de France. La Coupe de France 2025-2026. Oh. Un grand Roten sans flamme ce soir.
Tu le dis avec le
rictus. À 19h, Roten se chauffe. Est-ce que la Coupe de France doit devenir la priorité de l'Olympique de Marseille? Bam! Supporters marseillais, on vous attend. Ce soir, il y a ce match à Dornano face à Bayeux, le petit poussé club de Régional 1.
Tu l'as déjà mis en fond d'écran, toi.
Bah oui.
Oh, il est fou, ce mec.
Avec le maillot et tout. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour l'OM? 32-16 à 19h. À 18h45, l'un des héros du Paris FC sera avec nous, Ilan Kebal. Il rentre tout juste de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée avec l'Algérie.
Il est rentré, petite galette.
Et ouais,
voilà,
il va tout nous raconter.
Décisive,
Ilan Kebal, magnifique, super joueur qu'on adore.
Il y avait juste la place pour le mettre. Hein,
ouais.
Pour
après, il y avait Darry Cole dans les buts du PSG, donc il fait pas un arrêt.
Lucas Chevalier, on l'avait encensé après le trophée des champions.
Oui, écoute.
Bon, on en parlera tout à l'heure, de toute façon. Et puis à 18h30, l'autre actu foot de la journée.
Hein?
Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel?
Ça, c'est la première. Voilà,
c'est ça.
La première fois où on est passé. Là.
On va ouvrir le procès à 18h30 de Florentino Pérez, accusé de donner trop de pouvoir aux joueurs du Real Madrid. Changement d'entraîneur, vous avez suivi ça hier, vous l'avez appris dans Roten sans flamme. C'est terminé pour Xabi Alonso, c'est Alvaro Arbeloa qui va prendre sa place. Les premiers mots d'Arbeloa, justement, il veut que tout le monde reparte à zéro. Donc on verra s'il arrive à mener cette équipe du Real Madrid.
Exactement. Lui, on va pas tarder à repartir. Lui.
Il allait chercher loin, c'est là. On repart à zéro.
Ça y est, il faut faire ses preuves pour jouer au Real Madrid.
C'est pas 2-0.
Allez, 18h05 sur RMC. Tout de suite, Jérôme. Le PSG s'est raté hier soir.
On en rira quand on verra sous un jour meilleur.
La frappe enroulée de Barcola. ça va passer juste à côté.
C'est pas possible. La tête de Zavardi juste à côté. Oh, quelle occasion pour le Paris Saint-Germain.
C'est pas possible.
Le centre débarque là.
Oui,
vers
oui,
Pérédo, oh, ça passe à côté. C'est pas possible. La frappe de Vitinha. Et l'envolée de Cambadio.
Oh là 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 là, c'est pas possible.
C'est la stupeur au Parc des Princes avec Jonathan Ikoné qui vient marquer au bout d'un superbe mouvement. C'est terminé. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, éliminé par le Paris Football Club.
Ce soir, c'est un prank. C'est un prank, c'est un horrible prank. Quand je vois les attitudes de certains ce soir, je peux pas être ravi, je peux pas être content.
Le PSG fait ce qu'il peut. Je te dis que c'est pas parce que tu démarres avec une équipe type que tu aurais obligatoirement gagné ce soir.
Ah mais c'est
compliqué à comprendre ça.
Non, on a tout compris, coach Corbis. Le premier accro de la saison pour le Paris Saint-Germain, cette élimination en Coupe de France face au Paris FC au Parc des Princes hier soir, défaite 1 but à 0 contre le cours du jeu, il faut le dire, mais il fallait remonter à la saison 2013-2014 pour voir le Paris Saint-Germain sortir de la Coupe de France en 16e de finale. Parlons-en avec Arthur Perrault qui est avec nous. Salut Arthur.
Salut messieurs.
Salut Arthur.
Bonsoir à tous et à tous.
Alors comment on explique cette défaite au PSG?
Oui, première victoire de son histoire du Paris FC face au PSG. Le double tenant du titre est éliminé sur un but inscrit, vous l'avez entendu, sur une contre-attaque en fin de match. De quoi agacer l'attaquant Seni Mayolou en zone mixte dans la foulée de la rencontre.
On a eu des occasions, on n'a pas réussi à finir, que là on se prend une claque, mais on va rebondir. Un match, c'est une compétition, on veut tout gagner, du coup c'est quand même casse-pied.
Pourtant, le champion d'Europe a dominé les débats, 12 frappes au total, 68% de possession de balle, une défaite synonyme peut-être d'avertissement dès le début d'année. La réponse de l'entraîneur Luis Enrique.
Si tu regardes les résultats, peut-être, mais si ce que j'ai vu pendant tous les matchs, on a été très supérieurs. C'est comme ça le football, ce n'est pas juste, tu dois savoir perdre, et en ce cas-là, c'est clair pour moi que c'est un résultat tellement bizarre.
Une élimination du PSG en Coupe de France, ça n'était plus arrivé depuis 12 ans, tu l'as dit Benoît, et le Montpellier d'un certain Roland Courbis.
Merci Arthur, c'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Est-ce que cette élimination est embarrassante pour le Paris Saint-Germain? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme.
Embarrassante, oui, c'est le bon mot. On a cherché le thème du jour.
On a démarré par faute professionnelle, s'est dit c'est peut-être un peu fort.
Faute professionnelle, c'était toi.
Mais
embarrassante, oui, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi elle est embarrassante déjà dans le contenu, parce que moi je veux bien qu'on me dise que le PSG a dominé. Oui, le PSG a dominé, encore heureux qu'il domine contre le Paris FC qui lutte pour le maintien. En termes d'effectifs, moi on m'a expliqué qu'il y avait du turnover du côté du Paris Saint-Germain et que c'est normal, mais bon, moi j'ai pas constaté qu'il y avait un véritable turnover sur le match d'hier. Il y a beaucoup de joueurs
quand même.
Ah bon, mais
Pacho arrière gauche,
à part Pacho arrière gauche, mais bon, Pacho arrière gauche, c'est comme si tu jouais avec Beraldo arrière gauche, il l'a déjà fait, pourtant il a été dans l'axe et ça a libéré Zaïre Emery de l'autre côté. Donc en gros, ça c'est de la gnognotte.
C'était pas énorme non plus.
Quand même les gars, vous allez pas me dire que c'est parce que Pacho a joué arrière gauche que le PSG a pas réussi à gagner. Non mais alors là, c'est fort de café de faire ça. Le milieu de terrain, il y a deux joueurs titulaires dans ce milieu, c'est Ruiz et Vitinha. Il y a Mayulu qui a beaucoup joué, et Mayulu, vu l'exigence et les performances de Mayulu tout au long de l'année dernière, où ça a été même surprenant, c'est normal qu'il ait du temps de jeu et qu'il arrive et qu'on espère qu'il fasse des différences contre le Paris FC, encore une fois une équipe qui joue le maintien. Et la ligne d'attaque, c'est que des internationaux, Gonzalo Ramos, Kvaratskhelia à droite et Barcola à gauche. Donc c'est vrai que pour une équipe, c'est une équipe de minots, de Titi parisien. Non mais faut pas déconner, et t'as ton gardien titulaire dans les buts. Donc j'imagine, et en plus de ça, t'as sur le banc des joueurs qui sont rentrés, qui sont des titulaires en puissance.
Doué, Nuno Mendes.
Voilà, d'un seul coup. Quand tu les vois, les trois rentrés, franchement, j'étais au parc, dans les tribunes, j'ai vu les trois rentrés, je dis, ouah. Alors, le PFC, Gilly, il a fait ses changements. Tu vois ces trois là rentrés, tu te dis, bon, bah, alors là, bon courage pour le Paris FC. Et puis, à l'arrivée, c'est eux qui marquent et qui tiennent. Et ils tiennent avec de l'efficacité, c'est sûr, de la réussite, avec un gardien, et comme très souvent ça arrive, une équipe qui défend, qui passe son temps à défendre, un gardien qui se chauffe, et qui chauffe, et que plus ça allait, plus il fait des résultats, c'était Jésus dans les buts, mais peu importe.
Et pourquoi après, c'est embarrassant alors?
C'est embarrassant parce que dans le contenu, sur la première mi-temps, par exemple, t'as un faux rythme qui se met en place, comme trop souvent au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, depuis le début de l'année.
La suffisance.
Et que moi, on m'a expliqué. Alors, je sais pas, Steve, si c'est de la suffisance ou autre chose. Ce qui est sûr, c'est que tu dis pas très fortement qu'aujourd'hui, parce que les dirigeants, ils ont du mal à le dire, les joueurs, ils vont pas le dire, la preuve, et quand t'entends Maiolo, tu te dis, mais Maiolo, il a fait un super match, et puis ils sont malheureux, ils sont pas efficaces, alors que ça a été totalement l'inverse, et que lui, au lieu de venir parler au micro, il devrait venir peut-être aller direct, rentrer chez lui, se reposer et se remettre en question, parce que le début de saison, il est quand même très très moyen de sa part.
T'as des doutes,
et que, voilà, ouais. Non, mais aujourd'hui, plus que l'année dernière, ça c'est sûr, et il y a une déception. Mais la déception, moi je te dis, où c'est embarrassant, c'est collectivement, le PSG collectivement ne dégage pas autant de force que tout au long de l'année dernière, et pas que sur les 6 derniers mois, les gars. Moi je vous le dis, dans le pressing qu'ils veulent mettre en place, dans la façon de faire circuler le ballon, dans le fait d'être exigeant, d'être efficace offensivement, c'est pas normal de voir des joueurs comme Barcola par exemple, parce que lui, je stigmatise là-dessus, et je vais donner la parole à Steve et à Jean-Michel parce que je suis trop long, mais Barcola sur la première mi-temps, il est à côté de moi, il est face à moi. 5 ballons de suite, 5 ballons perdus. Moi, je suis désolé, quand on parle d'exigence, et tout ce qu'il a eu l'année dernière, et tout ce qu'ils ont eu l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas que Barcola, tous les autres, c'était qu'ils étaient ultra exigeants. Ils pouvaient rater, tu peux rater, c'est arrivé à tout le monde de rater des face-à-face, de rater des contrôles, de rater des 1 contre 1. Il n'y a pas de problème de rater ta passe, parce que c'est arrivé. Mais quand ça t'arrive une fois dans un match, le haut niveau, c'est ça. L'exigence, c'est ça. Ça t'arrive une fois dans un match, le deuxième ballon, vaut mieux le réussir. Ça peut arriver de le perdre une deuxième fois de suite. Mais la troisième, c'est fini. La troisième, tu joues simple, tu rassures tes coéquipiers. Mais non, en fait, ils s'entêtent. Mais cinq ballons de suite.
Ouais, c'est le seul qui a fait des différences hier. Mais tu l'as plus vu que Ramos hier, désolé, Bradley Barcola.
Mais Ramos, moi j'ai de la peine pour lui. Ramos, peine, c'est un numéro 9. Mais mets-lui des ballons, mets-lui des centres. Qui c'est qui lui a mis des centres hier? Zaïre Emery quand il déborde, quand Barcola déborde. T'as vu les parpaings qu'ils ont envoyés?
Non, mais les gars. Tir, c'était pas mal.
Non, mais les gars, arrêtez avec Ramos. Moi, Ramos, il m'a fait de la peine hier. Parce que Ramos, il peut jouer 3 heures. Il ne marquera jamais un but avec des joueurs qui prennent pas d'initiative. On parle de Maiolo, on parle de Ruiz. Vous avez vu les parpaings de Ruiz? Alors Ruiz, magnifique, champion d'Europe. Il nous a tous bluffé l'année dernière. Et moi le premier, avec toutes les critiques qu'on avait pu faire.
Est-ce qu'il va échapper un petit peu la seconde de l'âme là?
Vitinha.
Allez-y. Donc c'est pour ça que c'est embarrassant vu le niveau de certains joueurs. Capitaine. Mais continuez à dire que c'est pas grave.
Alors.
Mais t'énerve pas, personne n'a dit que c'était pas grave.
Bah si, Benoît.
Ou alors tu as entendu des voix. Non, mais moi, hier j'étais content parce que j'ai rajeuni d'un peu plus d'un an et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va rester sur les deux derniers matchs du Paris Saint-Germain. C'est vrai, Jérôme, que s'ils refont ce match 10 fois, ils le gagnent 10 fois, le Paris Saint-Germain. Le match d'hier.
Ça, c'est le foot. Hein.
C'est, oui, mais bon, ce sont des choses qui arrivent et c'est pas par hasard si le meilleur joueur hier du Paris Football Club, c'est Cambadio, le gardien de but. Ce qui est plus problématique, c'est le match d'avant. Hein.
Contre l'OM, le match trophée d'avant, des champions.
Dans le trophée des champions, ils n'ont pas dominé de la tête et des épaules. L'Olympique de Marseille qui était en crise, qui venait de se faire battre par Nantes. Et là, à l'inverse, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, ou l'un des meilleurs joueurs, en tout cas le héros à la fin, c'est quand même le gardien de but. Donc, je pense qu'il y a, matière à être inquiet. Il y a matière à être inquiet. Et moi, je retrouve aujourd'hui, je dis que je rajeunis d'un an, parce qu'il me semble, Jérôme, que ce Paris Saint-Germain du début de saison
de cette
saison 25-26 ressemble étrangement et ronronne de la même manière que ronronnait le Paris Saint-Germain du début de saison 24-25 jusqu'au match contre Manchester City.
J'ai pas l'impression,
la fameuse analogie de Jean-Michel Larquet jusqu'au 22 janvier et ce match.
Tu sais pourquoi j'ai pas la même impression que toi. Je vais te dire, je te coupe juste là-dessus, c'est que collectivement, moi j'ai participé à tous les matchs au Parc des Princes, donc quand t'es au parc, tu vois un peu plus les choses qu'à la télé, ça c'est sûr. Et je trouve que collectivement, c'est beaucoup moins bien huilé que l'année dernière.
Alors si j'ai rajeuni d'un an, c'est peut-être que j'ai rajeuni de plus d'un an. Alors tu me diras,
je te rends compte,
c'est
Jean-Michel.
Le moment où on se posait des questions sur l'efficacité de cette équipe. Mais en tout cas, je n'ai trouvé dans cette équipe aucun changement de rythme, par exemple, Jérôme.
Oui, voilà, c'est vrai. C'est l'euphorie que je parlais sur la première mi-temps.
Incontestablement, c'est pas par hasard que j'ai utilisé ce verbe. Ça ronronne. Alors, de temps en temps, ils ont des occasions de but
exceptionnelle, la tête décroisée de Zabarni.
Zabarni, on peut en parler aussi.
Plutôt que de décroiser les têtes, Jérôme, je pense qu'il ferait mieux de faire des têtes. C'est tout simplement.
Bah, Zabarni, quand tu gagnes pas un duel contre les attaquants du PFC pendant tout le match, parce que j'ai regardé hier, au lieu d'envoyer aussi lui des parpaings en tribune, parce que j'ai failli en prendre deux sur la tronche
en
avec ses relances.
Notamment, j'ai pensé à toi, t'étais pas loin, je pense.
Franchement. Bon. Vas-y, Jean-Michel.
Parce que quand il décroise les têtes, il ne touche pas le ballon. Il les fleure. Je pense qu'ils ont ramené, le coiffeur leur a interdit de frapper pour la mèche, je sais pas quoi. Mais.
On respecte ceux qui ont des beaux cheveux quand même.
Et qui ont des cheveux. Il y en a qui n'en ont pas, n'est-ce pas? Et qui changent de couleur même quelquefois, qui se les font teindre pour se donner une petite.
Pourquoi d'ailleurs? On se pose la question.
Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais sincèrement, Jérôme, je suis inquiet s'il n'y a pas un retour à ce qui a fait la force du Paris Saint-Germain à partir de janvier 2025. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut pas qu'ils comptent uniquement sur leur qualité technique. Il faut quand même qu'ils mettent du rythme, de la pression, tu l'as dit, avec une pression. Bon, hier même sans être très performant, le Paris Football Club a eu des pires difficultés.
Non, mais c'est normal, Jean-Michel, on parle du Paris Football Club. Ils sont à deux points de la relégation en Ligue 1.
C'était leur seule façon de gagner, de jouer comme ça.
Mais aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est l'entraîneur qui va leur dire ou si ce sont les joueurs qui vont se le dire entre eux, mais il faut qu'ils reprennent les bases de ce qui a fait leur succès l'an passé, c'est-à-dire retrouver de la verticalité, de la vitesse et un petit peu d'agressivité dans les actions finales.
Et de la qualité technique, parce que l'exigence, elle part de là, Jean-Michel. Moi, quand j'entends les joueurs... Alors, bien sûr que le joueur, il vient en conf de presse, on est passé par là aussi. Tu vas pas aller démonter tout le monde parce que t'as perdu contre le PFC un match de Coupe de France. Ok, tu protèges un peu le collectif, tu te protèges toi et tout ça. L'entraîneur, qu'il ait le discours comme ça en disant « Ouais, on a frappé 25 fois, on aurait dû... » Comme tu l'as dit, Jean-Michel, on aurait dû gagner le match, on le refait 10 fois, peut-être qu'on le gagne 9 fois. Là, on le perd sur un fait de jeu. Sauf que, à côté de ça, t'as quand même des manques. Et des manques, en termes, tu l'as dit, de rythme, de concentration, et puis surtout de qualité technique. Parce que, franchement, j'ai vu des erreurs techniques. Là, encore une fois, Barcola est devant nous. T'étais à côté, t'es pas loin, Benoît. Quand il a un ballon à mettre, tu critiques Gonzalo Ramos. Il a un ballon à mettre pied gauche. Franchement, on parle de Barcola, il est champion d'Europe. Hein. Oui. Donc moi, je parle pas d'une équipe du Paris FC où tu peux accéder. Il t'envoie un ballon, mais il est à 3 mètres de là où il doit le mettre, dans les pieds du défenseur. Et Gonzalo Ramos qui fait le bon appel, sûr que là, on le voit pas sur l'appel.
Mais
tu sais, à cause de cette action-là, les gars, je vous le dis, pied gauche, je suis rentré avec un seul pied. Parce que je lui ai balancé ma chaussure sur le terrain.
Ah bah super.
Voilà, je lui ai dit, allez, vas-y, prends-la, au moins tu la mettras à la phase décisive.
Mais la différence avec toi, c'est que je préfère quelqu'un qui se bouge, qui fait des différences, qui t'a raté le dernier geste, plutôt que quelqu'un qu'on voit pas pendant 90 minutes.
Jérôme, tu sais que.
Après, Steve, parce que Steve, on l'a pas entendu encore.
L'action symbolique du manque d'engagement. Alors, vous allez peut-être pas vous en rappeler, mais je pense qu'elle va vous revenir. À un moment donné, il reste 10 minutes à jouer. Et Barcola, décidément, on le prend et c'est lui qui déguste ce soir. Barcola est à la lutte avec le petit arrière droit qui s'appelle Sangui, je crois.
Il a
l'avantage dans la course, dans l'attitude, dans la position, dans la taille et sur le côté droit à l'entrée des 18 mètres, il se fait encore piquer le ballon alors que c'est lui qui doit l'avoir. Mais il pense que comme il s'appelle Barcola et comme il a le maillot du Paris Saint-Germain, il va l'avoir le ballon. Non, Barcola, il faut que tu te battes pour l'avoir le ballon parce que le petit arrière droit du Paris Football Club, il va pas te laisser,
Est-ce que c'est une faute professionnelle alors?
Je mets les pieds dans le plat. Hein. Ouais, c'est une faute professionnelle parce que on parle que le gardien Cambadio il fait un match extraordinaire. Oui, mais combien d'occasions où le ballon ne pas cadré. même jusqu'à la dernière tête à la 96e minute.
Ouais, de Doué, là. Ouais.
Doué, oui. Franchement, honnêtement, Jérôme.
C'est coincé.
Là, il se croit qu'il est à 1 mètre du but, je crois.
Il y a 16 frappes non cadrées par Paris.
Non, il n'est pas à 1 mètre du but. Il est...
Allez, dans les 5-50.
Ouais,
honnêtement,
bon, après, moi, si tu la mettre à côté, je ne vais pas lui donner une leçon. Là,
non,
je te laisse faire.
Bon, il n'y a pas de souci. Mais la mettre à côté. En plus, que honnêtement, Cambadio, là, il fait une erreur parce qu'il ne sort pas. Il ne va pas au duel, il reste sur sa ligne.
Ouais.
Honnêtement, c'est plus difficile de la mettre à côté. Moi, pour moi, c'est l'action qui résume le match. Parce que, et Jean-Michel le disait tout à l'heure, c'est que moi, j'avais déjà une petite alarme sur le match contre Marseille il y a une semaine. Ouais, ça passe.
Il est plus inquiétant, celui-là.
Ça, c'est un bon débat.
Mais il est
ça
plus passe. Inquiétant parce qu'il y a plus d'adversité. Le niveau de l'OM est supérieur au PSG.
Exactement. Ouais. Il y a plus d'adversité dans le jeu, dans la culture du jeu. Pas de problème. Par contre, là, hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une équipe du PSG qui n'est pas à son niveau. Et le problème, c'est qu'on les compare par rapport à leur niveau de l'année dernière et ce qu'ils ont réussi à faire pendant 6 mois.
Aux six derniers mois.
Mais les mois d'avant, Jérôme, je pense que tu étais le seul ou quelques-uns à ne pas vous alarmer sur les mois d'avant.
Mais oui, parce que je voyais des choses que vous n'avez pas vues.
Par contre,
là, est-ce que tu les vois, ces choses?
Exactement. Ouais. Par contre, bah, tu avais
Louis Enrique. Je vais te dire l'inverse.
Louis Enrique a réussi. Pendant cette trêve hivernale de décembre, pendant les mois de janvier, février, à monter en puissance. Moi, je le dis honnêtement, le PSG a gagné le Graal en 24-25, a gagné la Champions League. Moi, je suis très alarmiste sur leur saison et sur le futur assez à court terme. Moi, je ne les vois pas. Les mecs concentrés.
Tu crains une saison blanche, Stevie?
Oh, moi, je te dis honnêtement, j'ai même peur. Là, on va parler de Marseille tout à l'heure. Mais ceux qui ont une plus grosse saison à faire, moi, je le dis à aujourd'hui, c'est Lens. Ils peuvent viser le titre, la Coupe de France.
Oh.
Et ce que je vois hier avec le PSG.
Enfin, il manquerait plus ça pour l'OM, si c'était le cas.
Non, voilà, mais je le dis, parce qu'on va en parler de l'OM. mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le PSG hier, honnêtement, personne ne met le pied dans le plat depuis 24 heures, à peine 24 heures.
Ah, bah si, la preuve,
on est dans le
enfin,
mais
enfin, consultant courageux sur RMC, parce merci qu'on a vu.
Ce qu'on a vu très positif l'année dernière. Marcola, il sautille. Il sautille, Jean-Michel, il l'a dit tout à l'heure, il se fait piquer la balle aux 18 mètres. L'année dernière, il passait le bras. Il allait jusqu'au bout. Là, tu regardais Dembélé. Hier, quand il fait le crochet, il fait le crochet pied gauche. Mais non, normalement, il faisait un crochet à droite, et après, il y avait trois joueurs dans la surface,
il leur
mettait une feinte, et il marquait. Aujourd'hui, le PSG n'est pas au rendez-vous, n'est pas dans son
Non, mais on les entend plus, Jérôme et Jean-Michel.
Non, mais Steve, même si t'es.
Attends, ils ont gagné la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu veux demander?
Même si t'es.
Il a eu le ballon d'or.
Même si t'es à l'excès, et que moi, je suis pas Madame Irma pour savoir s'ils vont faire une saison blanche ou pas, je dis juste un peu comme toi.
Alors, suis pas loin de le penser.
Mais un peu comme toi, que en effet, si tu te poses pas les bonnes questions et si tu te remets pas en question comme il se doit, en effet, tu vas avoir des déconvenues. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui n'est pas que sur la défaite d'hier, parce que c'est la Coupe de France et t'as le droit de perdre un match contre le Paris FC, te faire surprendre comme
tâche.
C'est le cas. Mais
ça fait tâche, le derby,
dans le match 5 jours avant contre Marseille, tu dois pas le gagner. Tu gagnes de la façon voilà. La semaine d'avant, tu joues le PFC chez toi, où tout le monde nous dit après la trêve, les vacances, la nouvelle année, on va récupérer tout le monde. Là, c'est une nouvelle saison qui commence. Bon. Les trois matchs de suite du PSG, c'est là que pour moi c'est embarrassant. Pourtant, il y a deux victoires, un match nul avec la victoire au pénalty au Trophée des Champions. Il y a la victoire au match de championnat contre le PFC et donc la défaite d'hier, mais dans le contenu, c'est largement insuffisant.
Exactement.
Et que les échéances, elles arrivent vite.
Et oui, parce qu'aujourd'hui,
et je finis là-dessus, et pour aller dans le sens de Steve, tu vas recevoir des équipes. Regarde le match de vendredi. Tu vas recevoir Lille. Lille, ils ont perdu contre Lyon.
Lille, ça va mal.
Ok. Non, mais ça va mal.
Mais Lille,
en termes d'effectifs et de qualité de joueurs, c'est bien supérieur aux joueurs du PFC. Ça, on est d'accord. Des gros matchs de Lille, il y en a déjà eu. Et à l'extérieur, ils sont chiants à jouer. Ils ont joué des matchs d'Europa League, de Coupe d'Europe, des gros matchs de championnat. Même si ça va moins bien, Lille est capable d'élever son niveau. Je suis pas sûr aujourd'hui avec ce que je vois que même si le PSG focus sur ce match vendredi, que le PSG se balade. Et attention, si tu gagnes pas le match de vendredi contre Lille, tu peux rentrer dans une mauvaise dynamique.
Auxerre et
non, mais en Ligue des Champions, ils sont à l'abri, tant mieux pour eux. Ils ont fait un bon parcours à défaut d'être incroyable. Bon. Ils ont fait un bon parcours en Ligue des Champions et ils sont déjà qualifiés. Après, est-ce qu'ils seront dans les 8, dans les 4 ? Ça, avec ce qu'on voit, on a des doutes.
Arthur Perrault qui est venu dans ce débat de Rotten sans flamme. Un grand merci à Steve Savidan qui a réveillé les dinosaures Jean-Michel Larquet, Jérôme Rotten.
Les dinosaures.
Bravo, Steve, t'as été excellent. Et dans un instant, on ouvre le procès de Florentino Pérez. On parle du Real Madrid. Florentino Pérez accusé de donner beaucoup trop de pouvoir aux joueurs du Real. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, on va recevoir Ilan Kebal. La patte gauche, elle est là, elle a tourné hier. Il a fait gagner le Paris FC. Exactement. Magnifique. Et,
on a du mal à le dire, Jérôme.
De quoi?
Le Paris FC, t'as du mal à le dire.
Bah oui, c'est pas naturel, comprenez-le. C'est une légende du Paris Saint-Germain, forcément. Forcément qu'il a du mal à dire Paris FC.
Dans la plus belle ville, dans la plus belle ville du monde, deux grands clubs.
Ouais.
Bah oui, il était temps quand même.
Ouais. Ben bah, Ilan Kebal, tu l'apprécies en plus. On l'avait déjà reçu, donc il viendra nous parler de cette.
Le Red Star, non.
Bah, le Red Star, ils ont qu'à être en Ligue 1, on leur parlera de grands clubs. Et bon. Ouais.
Après, allez, on y va.
Lusitanos. Non, on a dit pas le foot amateur ici.
Et ben pourquoi pas. Bah si on peut.
Pourquoi pas?
Ça manque.
Pourquoi?
Bah
oui.
Ouais.
C'est quoi, ça manquerait?
Et le Paris 13 Atlético, il y en a des clubs à Paris.
Exactement, mais c'est pour ça qu'on le fera dans Rotten sans fou, il n'y a pas de souci.
Voilà.
Pourquoi pas?
Eh ben, tu sais quoi, tu devrais faire une chronique. Allez, Rotten s'en fout.
Non, mais sérieux, on l'a fait, On l'a fait. Bah, t'interviens souvent.
Ouais.
Tu t'en rends même pas compte.
Bon, je t'envoie un message pour te dire exactement ce que j'ai envie de te dire, mais pas à l'envers.
Ah, mais oui, t'as loupé ça, au fait, quand t'étais pas là la semaine dernière. Stevie a fait des notes un jour. Bah, va réécouter ça en podcast.
Ah, bah oui, il faut que je le fasse.
Des notes incroyables.
Non, mais pourquoi vous faites ces choses-là?
Allez, réécouter ça,
pour mettre l'émission en péril.
J'ai mis 9,5 à l'émission. Sur 10.
Je t'ai envoyé le message, Jérôme. C'est bon.
Bon, allez, on y va, on attaque le procès.
RMC, Rotten sans flamme.
Moi, je reviens toujours à ça. Et tu as soulevé le loup. On l'a vu lors de sa présentation au stade Bernabéu. Bah, c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
J'en ai trop.
Le procès de Rotten sans flamme.
Changement d'entraîneur.
On embrasse Bernabéu.
Voilà, Bernabéu, on l'embrasse, tout à fait. Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real. Il a été licencié donc 6 mois après son arrivée, au lendemain de la finale de la Supercoupe d'Espagne, que le Real a perdu 3-2 face au Barça. Il y avait beaucoup de promesses lorsque Xabi Alonso est arrivé. Promesses rapidement envolées. Décision du président Florentino Pérez. Les arguments avancés par la presse espagnole, écoutez bien. Manque d'harmonie autour du projet de jeu, état physique de l'effectif et relations tendues avec Vinicius. D'ailleurs, toujours cette même presse espagnole dit que les négos pourraient reprendre vu que Xabi Alonso est parti entre Vinicius et le Real. Je vous livre juste les premiers mots donc d'Arbeloa, le nouveau coach madrilène. Nous avons une équipe de gars prêts à tout, conscients des exigences du Real. Tous les joueurs repartent de zéro, c'est un nouveau départ, ils sont tous très motivés. Voilà, crac, ça repart à la guerre au Real. Ouvrons donc le procès de Florentino Pérez ce soir.
Il y a des combattants. Il y a des
on va voir ça. Attention. Est-ce qu'il y a des guerriers, des gladiateurs dans cette équipe du Real? Florentino Pérez, accusé de donner trop de pouvoir aux joueurs du Real. Le procureur, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats pour le président madrilène. Monsieur Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Savidan, bonsoir.
Bonsoir, mais j'étais pas sûr quand même.
Commis d'office alors.
Commis d'office, ouais.
On va pas te faire parler.
L'aide juridictionnelle, l'aide juridictionnelle de Pérez.
Le verdict sera rendu par Yannick, supporter du Real au 32-16. Salut Yannick.
Allez, bonsoir messieurs.
Adios, Sonia.
Bienvenue.
Mais je vais peut-être me mettre avec Jean-Michel.
Oh, mais c'est pas possible. Bon, vas-y Jean-Michel, lance le procès. Qu'est-ce que tu reproches à Florentino Pérez alors?
Écoute, je reproche d'abord à Florentino Pérez aujourd'hui d'avoir oublié que le Real Madrid était le plus grand club du monde, essentiellement par la qualité de son équipe. Et il me semble que depuis quelques mois, il a oublié ce principe même que on a beau avoir un beau stade, on a beau avoir un bon public, on a beau avoir beaucoup d'argent. Ce qui est important, c'est la qualité des joueurs et la qualité de l'effectif. Et incontestablement, il n'y a pas un madrilène aujourd'hui qui est content de l'effectif du Real Madrid. Et j'accuse Florentino Pérez de s'être désintéressé de ce qui fait l'essentiel du Real Madrid, c'est-à-dire l'équipe de football et l'équipe première. Pour quelle raison ? Mais parce qu'il est occupé par des tas de trucs, Florentino Pérez. Il était occupé par le stade, la construction de stade. Et Florentino Pérez, aujourd'hui, il est en guerre contre tout le monde. Vous l'aurez quand même remarqué.
Oui.
Que ses combats, ses préoccupations premières, c'est pas le football, c'est pas son équipe première. Il est en guerre contre la fédération, il est en guerre contre l'UEFA avec la Super League, il est en guerre avec les arbitres, il est en guerre avec le FC Barcelone, il était en guerre avec le Paris Saint-Germain, il est en guerre avec tout le monde. Et moi, ce que je reproche aujourd'hui à Florentino Pérez, auparavant, il y avait au moins, quand il y avait l'institution et l'équipe, et quand l'équipe marchait moins bien, tu disais, l'institution est tellement forte qu'à un moment ou un autre, ça va revenir dans la norme. Mais aujourd'hui, Florentino Pérez est quelqu'un qui est esselé, et il a oublié quand même que... Comment comparer les équipes, les défenses avec Carvajal, Marcelo, Ramos et Varane avec la défense actuelle? Ça, comment comparer le milieu de terrain de Modric, Kroos avec le milieu de terrain actuel?
Ouais, mais je veux joueurs, bien.
Quand?
Bah, au Real. Il y a Valverde, Tchouaméni.
Non, mais je te dis pas que ce sont des mauvais joueurs. Je les compare par rapport à d'autres joueurs.
Bellingham.
Je les compare à d'autres joueurs. Et si tu demandes à un supporter madrilène s'il préférait le milieu de terrain d'avant à celui d'aujourd'hui,
bah là oui, bien sûr. On verra.
Il va falloir que tu me le présentes.
Alors,
Benoît.
D'accord.
Donc Florentino Pérez, il a oublié l'essentiel. L'essentiel au Real Madrid, c'est la qualité de l'effectif. Et cette qualité, elle n'est plus celle qu'elle était.
Un soutien inattendu, puisqu'on a un deuxième procureur avec Steve Savidan, alors.
Alors, je vais valider tout ce qu'a dit Jean-Michel. Mais en plus, surtout, c'est que il veut trop plaire aux stars. Le club, il perd quand même de son autorité. Dans les très, très gros clubs, comme le plus gros club du monde, le plus grand club du monde, le Real Madrid, personne n'est au-dessus de l'institution, que ce soit les joueurs, mais que ça soit aussi le président qui est élu avec les socios. C'était un fonctionnement assez particulier. Puis les entraîneurs, ils font quoi? Ils gèrent des égos. Alonso, il l'a dit. Il l'a dit, c'était une crèche. J'avais l'impression de gérer des gamins. Alors le problème, c'est les gamins, si tu leur donnes pas d'objectif, si tu leur donnes pas de ligne directrice, c'est-à-dire gagner des titres, Jean-Michel l'a dit, c'est qu'à force d'avoir des combats qui sont partout, mais qui ne sont pas sur le terrain, sur les résultats et les trophées, au final, c'est un bordel. Les joueurs, ils ont perte de repères, perte d'institution. Moi, je crois qu'honnêtement, c'est un gros déséquilibre pour le club, pour le vestiaire surtout. Parce que ces grands champions qui sont dans cette équipe, même si Jean-Michel, je suis d'accord avec lui, on ne peut pas les comparer avec ces dernières équipes qui sont passées au Real Madrid, les dernières décennies, milieu de terrain, défenseur. Mmh. C'est sûr, on ne peut pas les comparer parce qu'ils ont, tout gagné. Par contre, ces joueurs... en fait, ils deviennent à aujourd'hui intouchables sans avoir pratiquement rien gagné. D'accord? C'est peut-être des très grands joueurs. Je crois que le Real de Madrid doit remettre les projets sportifs au cœur de leur projet de club.
Alors, parole à la défense, Maître Rotem.
Moi, je suis pas en contradiction avec tout ce qu'a dit Jean-Michel et Steve en confirmant, mais
en substance.
En fait, j'étais hier quand on a appris que Arbeloa arrivait et que Xabi Alonso était démis de ses fonctions. J'en voulais, c'est un grand mot, au président. Je me suis dit, mais attends, il part avec un objectif de changer les choses dans le vestiaire.
La saison est morte.
Et au bout de 6 mois, il lâche son entraîneur sous prétexte que t'as perdu encore un match comme l'année dernière contre Barcelone.
Entraîneur qui était vendu révolutionnaire, ouais, qui a réglé tous les problèmes.
Il y a une vraie différence et tout ça. Mais pour moi, un entraîneur, déjà, une durée de vie limitée, mais pour mettre quelque chose en place et changer une structure structure de séance d'entraînement, une structure tactique et les mentalités, parce que si certains s'étaient endormis avec Carlo Ancelotti, on l'avait senti l'année dernière, et pourtant c'est Carlo Ancelotti, hein, pas n'importe quel entraîneur qui a déjà tout gagné, la saison dernière du Real était insuffisante. Donc je te disais, mais il est complètement taré, Pérez, et ça fait un bout de temps qu'on sait qu'il est sur la sellette, Xabi Alonso. Et puis après t'as le regard, les infos de Marca aujourd'hui du vestiaire et des joueurs. Et moi, je crois en effet ce journal espagnol qui est à la pointe et qui se trompe rarement et qui nous fait donc aujourd'hui des révélations en disant que les joueurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils s'entraînaient quand ils voulaient. Que physiquement, quand ils avaient pas envie de bosser physiquement, bah ils bossaient techniquement, et que l'entraîneur, bah il les accompagnait. En fait, c'est un accompagnant. C'est pas un entraîneur. C'est pas quelqu'un qui est entraînant. Pourtant, c'est le.
Il aurait dû être préoccupé par ça quand même, Florentino Pérez.
Oui, mais Jean-Michel, ce que je veux dire, c'est que si tu baisses, t'es Xabi Alonso. T'es venu avec des grandes phrases. C'est pas moi, hein, c'est lui qui l'a dit. Je vais les faire courir. Rappelez-vous, la Coupe du Monde des Clubs. On va presser, on va changer. Et même si on a pris une claque contre le PSG, il y a des satisfactions. Il y a des joueurs qui ont gagné certains statuts, d'autres qui ont été rétrogradés, comme Vinicius et d'autres. Tu vois, le cas de Hendrik, il s'est fait dépasser par Oscar Garcia, parce que Oscar Garcia, il a brillé à la Coupe du Monde des Clubs. Bon, Gonzalo, ce que je veux dire, Gonzalo Garcia. Et ben à l'arrivée, ce qui s'est passé, c'est que très vite il a baissé les armes, il a laissé les joueurs se gérer, et forcément ben là tu prends dans la tronche. Tu payes pas un entraîneur comme Xabi Alonso aussi cher pour que au bout de quelques semaines il baisse les armes et il dit bon bah écoute, je vais faire comme les autres. En fait, ils sont en autogestion. Mais ce groupe, et Jean-Michel vient de le dire, c'est que ce groupe ne peut pas être en autogestion. Ces joueurs-là ont tout gagné. Mais pour regagner, il faut déjà que individuellement, ils se remettent en question et ils performent. Mais c'est un peu... Alors, attention, on n'en est pas à ce niveau-là au Paris Saint-Germain. Mais quand tu gagnes tout sur une année, j'imagine que c'est difficile de se remettre en question et de remettre le bleu de chauffe. Et ben les joueurs du Real ne le font pas assez. Donc pour moi, je condamne Xabi Alonso.
Bon.
Peut-être que le prochain entraîneur, il aura les coronnes, comme on dit là-bas, de mettre le bleu de chauffe et de mettre au milieu toutes les contradictions des joueurs. Mais je suis pas sûr qu'Arbeloa, il ait les épaules pour
qui
le faire.
Qui remporte ce procès, la team Larquet-Savidan ou Jérôme Roten, qui a plutôt attaqué Xabi Alonso?
Si vous me permettez deux secondes, déjà, parce que je suis aussi supporter de Montpellier, je voulais avoir une petite pensée pour Roland, ça m'a rendu très triste hier. Donc,
exactement.
Voilà. Alors, je vais donner raison à Jérôme sur ce procès, pas que Steve ou Captain ait tort, parce qu'effectivement, Florentino Pérez est coupable, comme les joueurs sont coupables, mais Xabi Alonso est lui aussi coupable. Ça fait 7 mois qu'il entraîne l'équipe, on n'a strictement rien vu, on a pris une branlée contre le PSG, une branlée contre l'Atlético, on n'a pas touché terre contre Liverpool, il n'y avait rien dans le jeu. Je pense que son bilan est même masqué par le fait que tu avais Mbappé et Courtois qui lui ont permis de surnager pendant de beaucoup de matchs. Et voilà, j'aurais bien aimé que ça marche Xabi Alonso, mais ça n'a pas marché. Est-ce que c'était humain? Je sais pas après Marca, ce que dit Marca et tout ça, mais est-ce que c'était humain? Est-ce que c'était tactique? Je pense juste qu'il n'avait pas les épaules encore pour entraîner le Real. Même si effectivement l'effectif est mal construit, mais là c'est sûr qu'il fallait arrêter parce que je pense que là
c'est pas là qu'il faut commencer.
Donc, bonne raison à Jérôme. Merci Yannick.
Merci Yannick. Et Steve, tu vois, la girouette.
Steve, t'as pas fait tourner ta veste. Steve, c'est dommage, t'avais bien démarré, puis là t'as.
Il tourne ça, ça y est.
T'as rechuté.
Allez, la note était élevée. Hein,
dans un instant,
note.
Allô Jérôme, Ilan Kebal avec nous au lendemain de l'exploit du Paris FC. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h40, tu vois, on est là, on est bien. J'ai mis un coup dans le micro. Et oui, j'ai perdu l'habitude. Le micro, il est grand, le micro, non?
Là, tu le tiens comme un crooner en plus.
Ouais. Je vais peut-être faire l'émission micro à la main.
Pourquoi
Bon, Danny Briand.
On est avec Steve Savidan. C'est pas Danny Briand, hein, depuis le début de l'émission.
Oh, c'est Steve Briand.
On est avec Jean-Michel Larquet, avec Benoît Boutron. Après 19h, Benoît.
Est-ce que la Coupe de France doit devenir une priorité, la priorité pour l'Olympique de Marseille? Ce soir, c'est Bayeux OM à suivre sur RMC.
Bon, là, on est sur l'A6 hein, pour Marseille.
Ah bah là, apparemment.
A6 à 7, là.
Droite gauche.
Bah, Ah, direct. Non, à 7, à 6, parce que c'est dans ce sens-là, ouais. Pour remonter sur Paris. C'est pas loin du Stade de France.
On part à 19h, voilà. Mais accueillons le héros de la soirée.
Sur la fenêtre.
Allez, salut à l'Ogéron.
Ah oui.
RMC, Rotten sans flamme.
On reste dans la surface de l'OM avec Dylan Kebal. Oh, oh là, la lucarne ! Dylan Kebal, le premier but en Ligue 1 pour le Paris FC depuis 46 ans. Quel et là, Rouli ne peut rien sur cette lucarne. 2-1.
Allô, Jérôme.
Un ami de Rotten sans flamme, Dylan Kebal, est avec nous.
Salut, Dylan.
Bonsoir à tous.
Salut, Dylan.
Ça va et vous?
Bah écoute, ouais, tu nous as manqué avec la Coupe d'Afrique. Hein. Ah, ouais, besoin de te retrouver là dans le championnat de France, Coupe de France. En tout cas, c'est bien reparti. Hein.
Ouais, franchement, ça fait du bien de rejouer.
Ah là, t'as fait jouer.
Et t'as bien fait de rentrer parce que t'es passé à décisif pour Ikoné hier.
Hein. Explique-nous, tu peux nous expliquer un peu le plan parce que bon, ça fait deux matchs de suite, t'as pas participé au match de championnat parce que t'étais avec l'Algérie, mais le plan de l'entraîneur parce que deux fois ça a failli fonctionner, ça a fonctionné hier et même en championnat vous étiez pas loin.
Bon, en vrai, le plan c'était d'essayer de les gêner en essayant de presser, mais presser en bloc compact médian. Mais ensuite, plus le temps il avançait, plus on reculait, mais on faisait pas exprès parce que c'est leur niveau qui nous poussait à être dans notre surface. Et on savait que plus le temps il avançait, que s'ils ouvraient pas le score, on allait avoir une ou deux occasions parce que à la récupération, si on arrive à ressortir de deux, trois passes, il y a beaucoup d'espace et on a eu de la chance d'avoir marqué ce but-là.
Ilan, c'est quoi toi pour découvrir le plus beau stade de France comme ça? Ça t'a fait quelque chose?
Non,
Ilan,
franchement,
il est magnifique, mais allez, ça reste quand même le stade Vélodrome.
Ilan, dis-nous la vérité, qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le terrain, que tu vois les changements à la 65e et que coup sur coup tu vois rentrer Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes? Alors
non, c'est ce que je disais, c'est de la triche. Dès qu'on les voit rentrer, on dit c'est de la triche. En plus, ceux qui sortent, c'est des joueurs comme Pacho et Guevara. C'est de la triche. Ouais. En plus, déjà on souffre et on voit les trois rentrer. On s'est dit bon, on va essayer de tenir et au final, on a eu de la chance, hein, on va dire, parce qu'on a eu de la réussite et il en faut contre cette équipe-là, de toute façon.
Mais là, ça peut que vous rebooster. Alors, c'est vrai que c'est compliqué aussi en championnat. Vous avez deux matchs
de Ligue 1,
deux matchs à votre portée où il va falloir se rater. J'imagine que pour la confiance, c'est magnifique ce que vous avez réalisé hier.
Ilan, t'es là?
Ah, ça y est.
Il va revenir, Ilan. Eh oui, c'est vrai que le calendrier du Paris FC, on l'a dit, 15e de Ligue 1, 16 points, et les prochains matchs, c'est à Nantes et contre Angers. On l'a retrouvé, Ilan, Jérôme.
Ilan, ouais, je te disais. Ah,
il va revenir d'ici quelques secondes. Joueur que vous appréciez beaucoup aussi, Jean-Michel et Steve, Ilan Kebal. C'est la révélation du Paris FC sur ce début de saison, Jean-Michel.
Oui, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Je pense qu'ils ont essayé. Et c'est vrai que c'est un garçon que l'on a découvert, qui hier fait la différence au moment où il entre sur le terrain. Il a pas eu beaucoup d'assises. Il faut la mettre, la passe. Elle est dosée, elle est bien dosée, elle est bien donnée, elle est bien amenée. Donc, quand tu rentres dans un match où les ballons sont très rares à toucher, parce que je n'ai pas regardé, honnêtement, j'ai pas regardé la position, mais on doit être
70,
dans le 80-20,
30.
Non
ouais, 70-30.
Ah, je pensais que c'était pire. Ouais. Donc, quand tu as un ballon, il faut t'appliquer pour le garder. Et à un moment donné, je pense qu'ils ont passé. Ilan, est-ce que tu as senti que sur le terrain que les Parisiens se disaient bon, de toute façon, ça va arriver, on va marquer avant que tu ne délivres cette passe décisive, ou même qu'ils se sont dit on va égaliser, il n'y aura pas de problème. Est-ce que tu les as sentis tu les as sentis douter un petit peu?
Vas-y, là.
Je pense que à 0-0, ils étaient pratiquement sûrs qu'ils allaient marquer parce qu'ils avaient quand même beaucoup d'occasions, de situations. Et ensuite, c'est vrai qu'après le premier but, on marque vers la 75e. Là, ils se sont regardés et ils se sont dit qu'il fallait aller vite accélérer parce que, en plus, on sait qu'en Coupe de France, il n'y a pas de prolongation. Donc, là, on a senti qu'ils ont douté dès qu'on a marqué ce but, ils ont commencé à douter et ensuite, ils ont vraiment tous accéléré. Et après, comme j'ai dit, on a eu un grand gardien aussi hier qui a fait énormément d'arrêts.
C'est vrai.
Et comme j'ai dit, on a eu de la réussite. Et comme j'ai dit, il en faut contre ces équipes-là, sinon c'est compliqué.
Ilan, est-ce que ça vous donne quand même l'envie en Coupe de France de... de déjouer les pronostics et pourquoi pas de profiter du fait d'avoir sorti l'ogre parisien pour se glisser encore un peu plus haut.
Bien sûr. Hier à la causerie, le coach il nous avait dit carrément qu'il voulait qu'on se qualifie. Donc on n'était pas venu au parc pour on savait que ça allait être pratiquement mission impossible. Le coach nous avait dit qu'on voulait se qualifier. Donc encore plus maintenant, on a éliminé le grand favori et on est en huitième de finale et on sait très bien maintenant que ça, on va dire, ça ouvre la porte un peu à tout le monde, on va dire.
Il faut avoir un peu de chance au tirage.
Exactement.
Ilan, surtout.
Ilan, on peut titrer donc après ton intervention l'objectif du PFC, c'est de gagner la coupe.
En fait, on est en huitième de finale. Si on est vraiment compétiteur, bien sûr que l'objectif c'est d'aller au bout. Mais on sait qu'il reste quand même encore beaucoup de grandes équipes. Mais en tout cas, oui, on est en huitième de finale et on veut aller au bout. Ça, c'est une certitude.
Ilan, est-ce que tu as reçu des messages de tes potes marseillais qui t'ont dit merci surtout?
non, ça va. J'avais pas trop reçu. Bon.
Mais il a plus d'amis marseillais. C'est un Parisien.
Ça fait 4 ans que je suis ici. C'est vrai que.
Mais arrête.
Ils sont à Paris.
Mais je t'ai vu embrasser les cuissons du PFC et du PSG aussi à la fin. Non, c'est beau. Bravo, Ilan.
On est obligé de parler de
Ilan. Ouais, on est obligé de
la Coupe d'Afrique, bien sûr.
Ouais. Alors, déjà, avant de parler de la Coupe d'Afrique, j'ai juste une question sur l'enchaînement des matchs. Vous viviez une période compliquée en championnat. Là, vous allez jouer deux équipes à votre portée. J'imagine que là, l'objectif, c'est vraiment de faire tourner le compteur là, sur ces deux matchs.
Bien sûr, exactement. Mais c'est pour ça que je pense que cette victoire va nous faire du bien, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. Donc je pense qu'on était un peu en manque de confiance. Et là, on sait qu'on va se déplacer à Nantes et on sait que c'est un match à 6 points. On en est conscient et il faudra être présent parce que ça va être un match, je pense que ça va être le match le plus important de notre saison ce week-end.
Et oui, on est obligé de te parler de la Coupe d'Afrique. Hein. Alors,
l'Algérie
c'est sûr que
sorti en quart de finale par Nigeria
2-0. Oui, après, c'est pas grave de dire que le Nigeria a gagné logiquement ce match-là. Comment tu l'as vécu, cette compétition? J'imagine que pour toi, c'était un rêve de gamin de pouvoir participer à ce genre de compétition.
Non, franchement, c'était incroyable. On a été mis dans les meilleures dispositions. Les terrains, c'était incroyable. C'est vrai que les supporters, ils étaient nombreux. Et ensuite, on a réussi à se qualifier. Ça faisait deux ans deux compétitions qu'on passait pas les poules. Et là, on est en quart de finale et on est tombé sur ce match-là contre plus fort que nous. Ils étaient clairement sur ce match-là. Voilà, ils ont été meilleurs, mais voilà, ça va nous permettre d'apprendre pour cet été, parce qu'on a une Coupe du Monde à préparer et il faudra être présent aussi.
Ilan,
un peu déçu quand même d'avoir joué que quelques minutes. Petkovic,
12 minutes, ouais.
Ouais, Petkovic, tu aurais pu te faire un peu plus confiance, non?
moi, comme j'ai dit, je répondrai toujours présent si le coach avait besoin de moi.
Je le dis pour toi, en fait.
Ouais.
Voilà.
Bien sûr, j'étais là et déjà, c'était une fierté d'être dans ce groupe. Après, en compétiteur qu'on est, on aimerait tous jouer titulaire. Hein. Ça serait mentir de dire le contraire. Mais voilà, j'ai pris ces 11 minutes vraiment à fond. J'attendais que ça. Et voilà, si le coach il aurait besoin de moi encore pour une, deux minutes, j'essaierai de répondre présent quoi qu'il arrive.
Il a dit un mot, qui va gagner la CAN?
Franchement, ça va se... Pour moi, c'est entre le Sénégal, le Maroc et le Nigeria, c'est les trois.
J'aurais rajouté les Égyptes aussi, comme ça au moins on est sûr.
On va rajouter Égypte, mais je pense Sénégal, Maroc peut-être.
C'est le Maroc, non?
Ah, Sénégal aussi, c'est vraiment costaud de ce que j'ai vu les joueurs.
Et quelle est l'équipe qui t'a fait la plus grosse impression, Ilan? Parce que visiblement, tu as l'air d'être dithyrambique sur le Nigeria. Là.
Non, le Nigeria, c'est vrai qu'ils étaient très très forts. Oui. Franchement, ils ont été meilleurs que nous sur ce match-là. Il n'y a pas photo, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que Maroc, c'est pas le même match que contre nous, parce qu'ils sont chez eux, avec l'appui du public. Et on va dire ils sont un peu dans l'obligation de gagner. Ils savent très bien qu'ils sont chez eux, ils veulent gagner cette CAN. Donc ça va être un match 50-50 pour moi.
Bon, merci beaucoup
merci
en tout cas.
Merci à vous.
Je suis sûr que vous allez faire une belle Coupe du Monde avec l'Algérie.
J'espère.
Voilà. En tout cas, comme ça, moi, à la maison, ça se passera mieux.
Voilà.
Voilà.
Exactement. pour les paris RMC.
Ouais, pourquoi pas.
Ilan, merci beaucoup. Tu es un habitué de Rotten sans flamme. Et voilà. Et en tant que parrain, tu vas revenir bientôt. En tout cas, je te souhaite d'enchaîner les bonnes perfs.
Allez, les demi-finale de la CAN demain. Sénégal-Égypte 18h, Nigeria-Maroc 21h. Dans un instant, Rotten se chauffe. Est-ce que la Coupe de France doit devenir la priorité de l'OM? 32-16.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h04 sur RMC. On est là, on est bien de Rotten sans flamme. C'est la deuxième heure de Rotten sans flamme avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. On s'est régalé sur la première heure. On a passé des beaux moments. Elle est déjà disponible en podcast, donc vous pouvez aller télécharger le podcast, vous abonner à la chaîne Rotten sans flamme. Et surtout, on remercie Ilan Kebal d'être venu nous livrer ses impressions de cet exploit hier.
Il nous a donné ses 4 favoris pour la CAN, pour la victoire, du coup. Et il nous a dit Sénégal, Égypte, Nigeria, Maroc.
Ouais.
Donc les demi-finales à suivre demain sur RMC.
Ouais, et je lui ai demandé aussi les favoris pour la Coupe du Monde. Il m'a renvoyé un texto et il m'en a mis
48.
Il m'en a mis 24.
Ouais, c'est ça. À 19h45, le quiz de Rotten sans flamme, tous contre Rotten. Le cadeau, c'est une carte cadeau de 100€ à valoir chez Maison Scarlett, la marque française de fabrication de boîtes à montres et boîtes à bijoux. N'hésitez pas, donc 32-16 touche 4 au quiz par SMS au 7-32-16. À 19h30, la VAR de Rotten sans flamme. La vente de Robinho Vaz à la Roma. Aujourd'hui, on aura les infos avec Fabrice Hawkins. Est-ce que vous comprenez la stratégie des dirigeants marseillais? Là aussi, on vous attend, donc supporters de l'OM au 32-16. Et justement, Marseille, on en parle tout de suite parce qu'hier, il y avait des scènes de liesse sur le Vieux-Port.
C'est terminé. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, éliminé. Des illusions pour les joueurs de Luis Enrique qui ne gagneront pas tout.
Jérôme, le 100% n'existe pas.
J'ai eu la larme à l'œil.
Soir, je vais pas dormir. Je célèbre toute la soirée.
Marseille champion.
Toute ma vie, j'ai rêvé. On va continuer à rêver. Le coach est encore plus rêveur que moi, donc ça tombe très bien.
L'élimination de Paris Saint-Germain, c'est un événement, mais en même temps, c'est un accident.
Oui, tu es prétendant au titre, bien sûr. Bien sûr que tu es prétendant au titre.
On fait du football à un certain niveau pour chercher à dégagner des trophées.
Ça va faire mal à Jérôme. On va être champion.
Et allez, l'OM.
Et oui, c'est une belle opportunité pour les concurrents du Paris Saint-Germain. Paris, le double tenant du titre, vainqueur de 8 des 11 dernières Coupes de France, s'est fait sortir hier. Il fallait remonter donc à la saison 2013-2014 pour voir Paris sortir aussi prématurément de la Coupe de France. Belle opportunité pour l'Olympique de Marseille qui court après un trophée depuis 2012 et après la Coupe de France depuis 1989. Ce soir, déplacement à Dornano pour affronter le petit poussé Bayeux. Club de Régional 1. Un petit coup d'œil d'ailleurs sur
les
clubs.
Le prince de Dornano. Hein.
Ah oui, à quoi?
J'étais le petit prince de Dornano.
Ah bon?
Ah bah oui.
Ah non, c'est Steve qui a plus marqué quand que toi.
Ah non, moi j'étais pas le prince. Ah non, j'étais pas le prince, j'étais le roi.
Il a fait trois
matchs. Il y a le prince à Malherbe, il y a le roi. Steve Savidan et bien derrière, il y a Jérôme Rotten.
Mais non, au stade de Malherbe de Caen, le seul gaucher qui compte, c'est Gravelaine.
C'est Gravelaine, bien sûr.
Il était pas au stade. Non, il était à Venoy.
À Benoît, tout à fait.
C'est vrai que Xavier Gravelaine, il s'est attaché à beaucoup de clubs.
Ouais, c'est vrai que c'est la coupe
de club, le Xav.
Les clubs de Ligue 1 encore en lice pour le tirage au sort qui aura lieu d'ailleurs à partir de
20h. Il a eu des.
Et tu sais, tu parles du match de Bayeux-Marseille. Ah,
oui, oui.
Tu sais qu'à chaque fois que Paris s'écroule, pendant les 6 premiers mois, quand Paris faisait un accro pendant leur match, Marseille, ils avaient l'opportunité d'être premiers. Et tu sais quoi, je me dis, je veux pas la reporter la commune. Ce soir, Marseille a l'opportunité d'aller jusqu'à la finale ou peut-être gagner la Coupe de France.
Non.
Bah, tu sais quoi, je les vois pas forcément gagner à Bayeux ce soir.
Non mais c'est.
Allez, alors lançons le débat. Est-ce que la Coupe de France va devenir la priorité de l'OM? 32-16. Jérôme,
on a un clown comme consultant. Il est pas sérieux là.
Non mais. Tu sais, un clown remplace toujours des clowns. Un clown remplace toujours des clowns. Jean-Michel.
Ah mais Jean-Mi, il a dû en manger plus d'un là. C'est pas possible. Écoute, en tout cas, moi pour répondre à ta question.
Alors c'est la priorité de l'OM ou aller chercher ce trophée?
L'OM ne va pas déclarer forfait ce soir.
Déjà, je vais te dire une chose.
Quoi?
La Coupe de France, c'est un objectif pour tous les clubs de Ligue 1 déjà.
Oui, mais le tableau s'ouvre quand Paris sort.
Non, mais arrêtez vos conneries avec ça. Bah, si. Parce que faire un objectif prioritaire à la Coupe de France, ça veut rien dire. Quand tu t'intéresses à un club comme l'Olympique de Marseille, qui joue la Ligue des Champions, qui joue le Championnat de France et qui joue la Coupe de France, maintenant qu'il n'y a plus de la Coupe de la Ligue, ils ont la chance de jouer trois compétitions. Mmh. Alors en effet, ils sont mal barrés en championnat, ils sont à 8 points du premier. On voit pas la dynamique de l'OM venir renverser le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Donc je les vois pas champions, mais ils ont encore l'opportunité de l'être quand même. Tu vois, au niveau comptable. La Ligue des Champions, bien sûr que c'est compliqué de croire que l'OM va gagner la Ligue des Champions, mais ils sont en passe de se qualifier pour le 16e de finale, déjà. Donc, étape par étape, et ben c'est la même chose pour la Coupe de France. La Coupe de France, on sait qu'il y a un facteur qui nous dépasse tous. Quand tu as joué, que ce soit avec les clubs amateurs ou les clubs professionnels, le tirage compte beaucoup. C'est sûr que l'OM, demain, au tirage...
Et ce soir, hein, le tirage.
Oui, mais alors, si se qualifie ce soir et que le tirage donne Lyon-Marseille. Bah écoute, ça sera pas cadeau pour l'Olympique de Marseille.
Non, mais c'est mieux que PSG-OM.
Si l'OM joue Lens. Lens, ils sont premiers du championnat.
Eh oui.
Est-ce qu'ils sont outsiders ou favoris sur ce match Lens-Marseille? Mais c'est toujours pareil. Donc attendez avant d'en faire des priorités. Bien sûr que l'objectif de l'OM, c'est comme l'objectif de Lens, l'objectif de Lyon, pour parler de ces clubs-là, qui sont de Monaco, ouais, des clubs qui peuvent faire tourner le compteur au niveau palmarès avec cette Coupe de France, sachant que le PSG est plus là. Bien sûr que ça fait partie des objectifs aujourd'hui d'essayer de faire un coup en Coupe de France.
Bien sûr.
Mais Jérôme, c'est pas prioritaire, Jérôme, plus que le championnat ou plus Jérôme, que la Ligue des Champions. Arrêtez vos bêtises.
Jérôme, les équipes de première division, sauf effectivement si le pronostic de Steve s'avère exact, c'est-à-dire que Bayeux élimine l'OM.
Ouais, bon, voilà.
Et les équipes de première division de Ligue 1 qui vont être qualifiées ce soir aux alentours de
23h.
De 23h, pardon. Elle respire mieux depuis hier au soir.
Merci.
En sachant quand même que le Paris Saint-Germain ne se présentera plus sur leur route, que ce soit en huitième, en quart, en demi ou en finale. Donc, il respire mieux. Après, effectivement, il y a le tirage au sort. C'est vrai que si tu rencontres une équipe de première division à l'extérieur, quelle que soit cette équipe-là...
Il en reste 9, des clubs de Ligue 1.
Tes chances diminuent. Si tu reçois une équipe de Ligue 2 ou de National chez toi, évidemment, tes chances augmentent.
Eh oui.
Mais le seul fait que le Paris Saint-Germain ne soit plus sur la route, ce ne soit plus un obstacle jusqu'à la finale, ça fait respirer.
Oui,
ça fait
mais
y compris l'OM.
Mais là où je te rejoins, Jean-Michel, c'est que les équipes, par exemple, parce que les équipes qui jouent que le championnat, j'imagine quand même que maintenant que le PSG est sorti, que ça soit des équipes de Ligue 1 ou même des équipes de Ligue 2, elles se disent, écoute, nous on fera pas tourner parce que le match arrivera peut-être en semaine le prochain tour.
C'est un match en milieu de semaine.
Voilà.
Ce sera le mercredi 4 février.
La commission de la Coupe de France s'est imposée. Donc les matchs auront lieu désormais à partir de dorénavant inclus, et comme avant d'ailleurs, le mercredi, parce qu'on sait bien que le mercredi c'est au mois de... Le mercredi, c'est
ça arrange tout le monde, les clubs amateurs.
Jean-Michel, il y aura un match mardi soir, il y aura un match mercredi, matchs mercredi et un match jeudi soir.
À Bayeux, il n'y a plus de clubs amateurs engagés en.
Non, mais peu importe, même quand il y a des clubs amateurs, de toute façon, ils nous font ça depuis X années maintenant. Mais juste avant de donner la parole à Steve, pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Michel, ce que je veux te dire, c'est que je ne veux plus entendre les clubs là que je viens de citer, les clubs qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent des matchs de Coupe d'Europe aussi, nous expliquer que vu que le match de Coupe de France arrive en semaine, il faut protéger les organismes, il faut protéger les équipes, parce que la priorité reste le pain quotidien, le championnat, et que la Coupe de France, que ça soit le mardi, le mercredi ou le jeudi soir, on fera une équipe mixte. Arrêtez vos bêtises.
Moi je les empêche pas de le dire, mais je suis pas obligé de les croire.
Mais je pense qu'ils le feront pas. Naturellement, ils le feront pas.
Ce sont des clichés. Mais s'ils en ont envie, ils vont pas se
jeter. Jean-Michel, est-ce que pour toi, je te repose la question clairement, est-ce que la Coupe de France doit devenir la priorité de la deuxième partie de saison de l'OM?
À l'instant où on se parle, ils sont en lice pour la Coupe de France, la Ligue des Champions et le championnat. Il me semble que
la compétition.
La compétition la plus facile à gagner, c'est la Coupe de France. Voilà.
Voilà. Voilà. Oui. Tu as fini. Tu as fini mon raisonnement. Ouais. Donc il était. Bon, il était clair, net et
c'est bravo.
Et,
voilà. Alors Steve.
Bah, répondre à ta question, Ben, bah non, c'est pas la priorité à Marseille. Leur priorité, c'est de finir à une place qualificative pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Mmh. Ça, c'est de s'inscrire dans le temps long.
Tu vois l'importance
entre Marseille. Attends, construis le jeu un petit peu.
Vas-y.
Tu marques jamais de but, donc attends, laisse filer.
C'est pas faux.
La priorité de cette saison, c'est la qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Maintenant, c'est aussi de faire un beau parcours en Ligue des Champions cette année. Et l'opportunité serait de gagner la Coupe de France pour être invité l'année prochaine. Attention, pour être invité l'année prochaine, parce qu'on était avec les supporters de Marseille la semaine dernière, juste à la veille du trophée des champions, où ils ne se sentaient pas légitimes de faire la finale, puisque c'est le premier et le gagnant de la Coupe de France qui avait été invité. Non mais regarde, parce que l'année prochaine, le trophée des champions sera peut-être un Lens Marseille ou un Lens PSG, mais le PSG n'aurait pas mérité puisqu'ils n'auraient pas été en Coupe de France, mais deuxième en championnat. Donc en fait, tu te dis que pour être légitime au trophée des champions l'année prochaine, eh ben faut qu'ils gagnent la Coupe de France. Et je rappelle que Marseille est une ville et un club de titres et de trophées, et ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu.
89, la dernière Coupe de France, Jérôme.
Donc ça serait quand même pas mal. Et la plus belle coupe, quand même qui existe sur le territoire français. C'est quand même cette Coupe de
89,
France.
89, j'avais 11 ans.
Et rien de plus beau cette année d'avoir la Coupe de France. Ça serait quand même beau. Et ça tu vois, le projet Champions Project qu'on parlait il y a une petite décennie à Marseille, j'ai envie de dire. Et eh ben si ça pouvait recommencer.
Le Champion Project ou le
Champion Project.
Ouais.
Corruption.
Ou le projet d'Orkut aussi, c'était pas mal celui-là.
Franchement Marseille, ça serait quand même bien qu'ils aient quand même un titre, un trophée et la Coupe de France.
Bien,
c'est quand même sympa.
Bien, c'est même pas le problème de dire bien ou pas bien parce que il y a pas que Marseille, il y a des équipes
qui bossent bien quand même depuis 2-3 ans.
Monaco, ça fait un bout de temps qu'ils ont pas gagné la Coupe de France, c'est la même chose. Lyon par rapport à ce qu'ils ont vécu sur le début de saison, l'intersaison, bah automatiquement, si tu te dis Lyon, ils peuvent gagner parce qu'ils ont perdu il y a pas longtemps en finale de coupe. Hein. Ouais. C'était il y a trois ans
parce que le PSG est double tenant du titre.
Trois ans. Ouais. Le PSG, oui.
Non, c'était il y a deux ans, c'est ça, contre Lyon, la finale à Lille.
Il y a deux saisons.
Ouais. Ah oui, il perd la finale.
Ouais, c'est ça. Lyon, automatiquement, là, ils se disent, il y a peut-être quelque chose à. Et ce qui est normal, de toute façon. Mais là, après, qu'on vienne pas pleurer dans les clubs qui n'arriveront pas à gagner la Coupe de France, nous dire, ah bah oui, mais le PSG, il laisse jamais rien. Là, le PSG, ils ont laissé l'opportunité à un club d'étoffer votre palmarès. Allez-y, saisissez-la. Mais je vous dis, priorité ou pas, ça fait partie de la saison, la Coupe de France.
Allons-y sur un pari, parce que je trouvais la question moyenne excellente dans le Super Moscato Show aujourd'hui. D'après vous, qui gagnera le plus vite une Coupe de France? Le PSG ou l'OM?
Une Coupe de France?
Ouais. Entre Marseille et Paris, qui va gagner le plus vite une Coupe de France?
Bah, je pense que c'est Paris. Hein.
Jean-Michel?
Je vais dire l'OM.
Ah. Et toi, Steve?
Bah, pour être réaliste, et j'ai toujours peur, parce que c'est ce que j'essaie de développer tout à l'heure, c'est que Marseille, toutes les opportunités que le PSG leur donne en championnat et là en Coupe de France, ils n'arrivent jamais à choper le truc.
Ah, je vais dire l'OM parce qu'ils ont été bons contre le Paris Saint-Germain.
Ah, craque. Voilà. Bravo Jean-Michel, ça s'est affirmé. Ouais. Et Stevie, tu dis PSG alors.
Bah, moi, en étant pas du tout objectif comme Jérôme le fait avec le PSG, j'ai envie de te dire l'OM.
Mais déjà, moi, je suis objectif. Le Paris Saint-Germain, c'est le recordman du nombre de trophées gagnés. Et à Paris, quand tu ne gagnes pas une année, tu sais que tous les deux ans, toutes générations confondues, la Coupe de France, ça tourne.
16 voilà, Coupe donc, de France pour le PSG.
16, t'imagines?
10 pour l'OM.
Moi, j'ai gagné, Loïc. M'en fous, j'ai gagné la plus belle.
Supporter marseillais. Salut Loïc.
Par contre, Marseille qui est en finale. Je m'en souviens pas.
Salut messieurs.
Salut Loïc. Meilleurs vœux. Écoute, santé, surtout la base, et puis surtout plein d'écoutes de Rotten sans flamme. Bon, vas-y, on te laisse parler. On a beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu penses? C'est la priorité pour l'OM maintenant, la Coupe de France?
Ah.
Alors oui, c'est une priorité. Après, j'en discutais avec Max juste il y a quelques secondes là, en amont, au standard. À choisir entre on finit quatrième, on pourrait aller dans la Coupe de France, ou alors on finit second et on se fait
sortir. Ah oui, ça c'est dur.
La question est extrêmement difficile, mais aussi très très simple à répondre. Ah. On sait que la manne financière de la Champions League, elle est vitale pour le club. Alors en tant que supporter, bien sûr que, mais tant pis, je vais mettre 500 euros pour faire l'aller-retour jusqu'à Paris et voir la finale, évidemment. Mais on sait qu'on va être dans une panade, pour pas dire autre chose, monumentale derrière.
Eh, c'est clair. Ouais.
Ah, mais Loïc, un trophée. Quand tu vois les larmes de Zerbus,
Loïc, si tu gagnes la Coupe de France, tu gagneras que 1,5 million en plus lors du trophée des champions l'année prochaine. Au final, faut mieux être deuxième du championnat.
Non mais Loïc,
tu peux pas me dire que tu préfères être second quand t'es supporter de l'OM.
On veut tout gagner, et bien évidemment.
Mais les émotions, et Loïc, je vais te dire. J'ai eu la chance d'être joueur comme Jean-Michel et comme Steve. T'es dans un vestiaire et je suis bien placé pour le savoir parce qu'au PSG c'est ce qui s'est passé. Au PSG on galérait en championnat. On savait qu'on pouvait pas être champion. On visait encore les places en Ligue des Champions. C'était vital pour le club financièrement à l'époque. Hein, c'était pas les Qataris, hein, c'était Colonie Capitale. Et on avait l'opportunité aussi de gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Mais je peux te dire qu'on n'avait qu'une idée en tête, c'était de finir comme on pouvait en championnat, parce qu'on savait qu'on allait avoir du mal à finir en Ligue des Champions, mais que quand on a gagné un trophée et la coupe, ça nous a changé la saison. Et les émotions, même par rapport aux supporters, par rapport au club, par rapport aux dirigeants, tu marques l'histoire d'un club, les supporters et les joueurs, quand tu gagnes un trophée chaque année.
Bien sûr.
Et donc, automatiquement, le choix, il est fait. Vaut mieux gagner la Coupe de France et au pire finir quatrième de championnat. Eh ben, écoute, c'est comme ça.
Tu peux pas, Jérôme.
Mais si. Parce qu'on n'est pas des businessmen, on est des passionnés de football. Il faut mieux gagner un trophée.
Bien sûr en tant que supporter et en tant que joueur, comme tu l'as été, et Steve et Jean-Michel, vous avez envie de marquer l'histoire du club, et puis pour vous-même. Mais il n'empêche que économiquement parlant, elle peut être.
Loïc, arrêtez de faire des calculs d'apothicaire.
On n'est pas comptable.
Loïc.
Oui, Jean-Michel, je t'écoute.
Demande à Steve s'il n'aurait pas aimé gagner la Coupe de France.
À l'instant où on se parle.
Oui.
Ah, c'est vrai que t'as rien fait, toi.
Laissez le capitaine expliquer à Loïc la logique financière.
Loïc, à l'instant
où
on se parle, tu es sûr que si tu ne fais pas de la Coupe de France une des priorités ou la priorité, tu es sûr que tu vas te qualifier en Ligue des Champions?
Non, bien évidemment, parce que notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes. Et oui, notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes, c'est l'OM. Il n'y a qu'à le voir, comparons les deux derniers matchs, ou les quatre derniers matchs. On ne sait pas tuer l'adversaire quand il faut le tuer. Je me suis mal exprimé.
Oui.
Mais tu vois, on ne sait pas coffrer les points quand il faut le faire, pour se mettre à l'abri, pour se faire un petit matelas. Donc,
alors, tu sais, je vais te donner un conseil. Essaye plutôt de gagner la Coupe de France. Si tu ne sais pas gagner le match du championnat, contre Angers, contre Toulouse et contre Nantes. Voilà.
Oui, mais comme a dit un grand philosophe qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps, le pauvre homme, je peux dire une connerie aussi.
C'est tu vois l'hommage au coach Courbis, bien sûr.
Oui, j'ai eu la chance de faire une émission en plateau avec vous il y a 2 ans. Et j'avais eu la chance de le rencontrer.
T'as vu ce personnage incroyable?
Ah oui, oui, oui.
On a une forte pensée pour lui encore. Un hommage à Roland d'ailleurs, à l'église de la Madeleine demain à Paris. Rendez-vous à 15h pour tous les passionnés de foot qui voudraient lui rendre hommage sur le parvis donc de l'église de la Madeleine à Paris. Merci
et
Loïc
donc,
d'être venu.
On peut tous dire des conneries. Merci à vous.
Exactement.
Les gars.
Merci Loïc.
À bientôt.
Steve, je viens de regarder ton palmarès, du moins la ligne qui a marqué ton palmarès. Champion de France de Ligue 2 en 2006, ça tombe bien parce que moi en 2006 j'ai gagné la Coupe de France. contre l'Olympique de Marseille, la plus belle affiche de l'histoire. Alors, est-ce que tu t'échangerais pour voir l'important des priorités? Est-ce que tu échangerais ton titre de champion de Ligue 2 avec la finale en Coupe de France?
Il a changé la destinée d'un club. Il l'a remonté en Ligue 1. Tu te rends compte? C'est beaucoup plus valorisant.
Donc tu.
Mais c'est vrai qu'une finale de Coupe de France. Mais attends, parce que attends, 2006, c'était pas qualificatif une Coupe de France quand tu gagnais la Coupe de France?
Pas qualificatif en quoi?
C'est pas qualifié en Coupe d'Europe?
Bah si, bah oui, tout le temps. Oui, mais ça tout le temps.
C'était pas la vraie.
En UEFA.
Voilà, bah tu vois, pour Valenciennes, ça aurait été pas mal de gagner la Coupe de France. Ah ouais. Et qualifié en Coupe d'Europe, ça aurait été vraiment pas mal.
Bah non, vous nous auriez fait honte, laisse tomber.
Oh, ça va pas, non?
Jérôme, je te rappelle que t'as joué au PSG où on te mettait des branlées au Parc des Princes quand même. Même Valenciennes.
Invérifiable. Il a jamais gagné.
Attends, je te parle pas que de toi, je te dis le PSG.
On va mettre en route le PSG.
Alors, gagner le Cambodge au Parc.
Je jouais pas.
Arrêtez!
C'est le plus vieux qui est. Voilà. Arrêtez de parler de
Jean-Michel qui a dû vous mettre des roues au Parc des Princes, là.
Alors, Jean-Michel, il a jamais gagné au Parc avec Saint-Etienne, je peux te dire.
Jean-Michel, il a mis une reprise de volée incroyable au Parc des Princes.
Ah non, mais pas
de Coupe de France.
Ah oui, mais en finale.
Sans salir le short, ça c'est fort. Allez, dans un instant, on continue sur l'OM.
Je sais que tu recherches Jérôme. Je sais que tu regardes sur l'OM.
T'inquiète, on a lancé la cellule, Steve. On aura la réponse dans un instant. Et puis, on fera le débat donc autour de la stratégie.
J'ai du respect pour Jean-Michel. Il s'est assis sur le banc du Paris Saint-Germain.
Oui, grand entraîneur du PSG.
Il a un beau costume à chaque fois. Enfin, le costume.
La vente de Robinho Vaz à la Roma. Est-ce que vous comprenez la stratégie de l'OM? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h30 sur RMC. On est là, on est bien. Dernière demi-heure déjà. Allez, passez vite cette heure et demie de Roten sans flamme avec Steve Savidin, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. On s'est régalé. Ben, on va encore se régaler. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs avec à 19h45 pour se détendre. On va vous offrir un super cadeau avec le quiz de Roten sans flamme. Mais avant, on va faire encore
c'est un Louis peu Jabiet qui sera là. Le cadeau est magnifique. Une carte cadeau de 100 euros à valoir chez Maison Scarlett, marque française de fabrication de boîtes à montres et boîtes à bijoux. Jérôme Roten n'a toujours pas remporté un quiz en 2026. Est-ce que ça va changer ce soir? On aura la réponse. Pour vous inscrire, 32-16, touche 4, quiz par SMS.
Franchement, cette équipe-là n'a pas un beau ratio.
Tu sais qu'on a fait tous contre l'Arqué la semaine dernière. Eh oui, Jean-Michel a affronté tous les autres.
Et alors, il a été de mauvaise foi.
T'as gagné, Jean-Michel? Je me souviens plus d'ailleurs.
Non, j'ai perdu.
T'as perdu. Ah, l'honnêteté.
Non, mais moi, j'ai de la mémoire quand je perds ou quand je gagne, je sais.
Magnifique.
Il y en a qui n'ont pas de mémoire. Jérôme. Jérôme.
Allez, 19h31 sur RMC. Jérôme, l'arbitre vidéo t'appelle.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Le but, quand même, quand t'as un garçon comme ça, c'est une chance, tu le payes pas cher en salaire, donc c'est quand même une aubaine. C'est toujours mieux que d'aller aller chercher des mecs qui ont pas forcément l'amour du maillot, l'amour du club. Et puis c'est aussi ça le football, et ça doit être aussi ça l'OM. C'est amener des jeunes à maturité. Quel kiff pour un club. Si tu veux le vendre cher, le gamin, à la rigueur, que ce soit ton projet, et c'est le projet du football d'aujourd'hui, et même depuis très longtemps, ok, y a pas de problème, mais amène-le à maturité.
La VAR de Roten sans flamme.
L'avis du gars sur la situation donc de Robinho Vaz à Marseille et Fabrice Hawkins, l'homme des infos RMC Sport, nous rejoint. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Salut Fabulous.
Bienvenue Fabrice. Une info que tu as sortie aujourd'hui, ça y est, départ du jeune Robinho Vaz à la Roma alors.
Oui, effectivement, Marseille va se régaler, hein, c'est le cas de le dire. Transfert estimé à 25 millions d'euros, bonus compris pour l'attaquant qui a joué seulement 18 matchs en pro à l'OM. Le joueur de 18 ans vient tout juste d'atterrir à Rome. Il va passer sa visite médicale demain matin avant de signer donc jusqu'en 2031. Et c'est bien un transfert sec. Dans un premier temps, on parlait ces derniers jours d'un prêt avec obligation d'achat. Il y a eu entre-temps une approche d'Aston Villa et on a pu négocier la meilleure sortie pour l'OM. Donc un transfert sec de 25 millions d'euros, bonus compris, il faut le rappeler. Marseille a en plus réussi à obtenir 10% sur la plus-value à la revente. Vous l'avez compris messieurs, c'est un bon coup pour l'OM qui avait souhaité stopper les négociations pour la prolongation du joueur arrivé de Sochaux en 2024. Et donc ce transfert, hein, c'est la cinquième meilleure vente de l'histoire des Marseillais.
Est-ce qu'il va être remplacé dans l'effectif de l'OM?
Pas spécialement. C'était pas l'objectif de cette vente. On nous avait expliqué, notamment par le biais du président Pablo Longoria avant la trêve, que c'était important pour Marseille de vendre, que le club vivait peut-être un petit peu au-dessus de ses moyens. Il y a peut-être des arrivées sur certains secteurs clés. On pense notamment notamment au milieu du terrain avec Imadab qui est pisté à Angers, mais en tout cas on va pas dépenser cette enveloppe-là, l'entièreté, pour aller chercher d'autres joueurs.
Merci Fabrice pour ces infos à retrouver sur rmcsport.fr. Est-ce que vous comprenez donc cette stratégie des dirigeants olympiens? On avait vendu le projet jeune à Marseille il y a quelques semaines, avec la mise en avant de Robinho Vaz et de Daryl Bacola. D'un autre côté, Jérôme, 25 millions d'euros pour un joueur qui a fait 18 matchs.
Non, mais
est-ce que c'est pas bien vendu finalement?
Non, mais en fait, il y a deux choses. Il y a le discours des dirigeants. Il y a ce qui se passe, le discours dithyrambique sur Vaz, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'entraîneur, c'est Mehdi Benatia, c'est Pablo Longoria, les gens à la direction du club, tout le monde était unanime pour dire c'est un phénomène, c'est magnifique, c'est pour ça qu'il a fait des rentrées, des ceci, des cela, pas de problème, voilà. Bon, écoute, il a des choses, c'est un jeune joueur, il faut qu'il progresse encore. Dans la continuité de l'Olympique de Marseille, ça me paraît logique parce qu'il a eu du temps de jeu, donc qu'il soit pas forcément content de son contrat aujourd'hui, ou que l'OM le félicite, si tu veux, de ses bonnes entrées et de sa progression, pas de problème, il lui propose une prolongation. Moi, ce que je comprends pas, encore une fois, je sais pas, j'ai pas les tenants, les aboutissants, je sais pas ce qui s'est tramé dans les discussions de négo, de contrat ou quoi que ce soit.
Mais il y avait pas d'urgence,
ils ont stoppé les négociations. Excuse-moi, Jérôme.
Vas-y, ma femme.
Ils étaient en pleine négociation, et ce qui s'est passé après, vous savez comment ça se passe dans ce type de dossier, c'est chacun sa version. Mais l'OM a souhaité stopper les négos, et au club on nous a expliqué que parfois le comportement de Robinho Vaz, qui avait pourtant été loué, tu le disais à juste titre Jérôme, il n'était pas en adéquation avec ce que souhaitait l'OM. Ça c'était le discours qu'on entendait du côté des Phocéens, et c'est pour ça qu'ils ont souhaité stopper les négociations, et donc juste suite à ça, il était mis sur le marché des transferts. Mais ce qu'on comprend bien aussi, c'est que ça les arrangeait au vu notamment de la belle enveloppe qui récupérait.
Pour ça, en fait, Jean-Mi, avant de te laisser la parole et rebondir sur ce que tu dis, Fabrice, c'est ça, moi, qui me dérange, en fait. C'est que tu nous vends un projet, tu nous vends le truc, et puis quand tu vois qu'il y a une possibilité de le vendre 20, 25 millions.
Alors ça, pardon, mais c'est un principe de réalité.
Non, mais alors dans ces cas-là, nous vend pas du rêve en début d'année.
Mais
qu'est-ce que tu me racontes?
Mais arrête.
Et on te parle de stabilité, et c'est la seule, c'est le gage de réussite, la stabilité à l'OM. L'année dernière, il y a eu 15 départs. Il y a eu 15 arrivées, Jérôme, mais c'est bien.
5 millions d'euros. 5 millions d'euros, il a fait 18 matchs avec l'OM.
Il est effectif, il est fantastique. On a des grands joueurs. On a. Ok, pas de problème. Écoute, vends-le. 25 millions, c'est très bien vendu. Attention,
Jérôme.
Il y a quand même. Moi, les discours, j'ai du mal. D'un côté comme de l'autre. Mais là, moi, j'en veux.
Il faut pas les croire, les discours.
Alors, c'est des menteurs. Ok.
Mais. Je dis pas que ce sont des menteurs, ce sont des discours de façade, ce sont des propos et ce sont des paroles que les gens aiment bien entendre, et il faut toujours décoder derrière qu'il y a, comme l'a dit Benoît, un principe de réalité, et on n'est pas au courant de tout. Je crois qu'il était sous contrat jusqu'en 28, hein, 2028.
28, ouais.
C'est ça, Fabrice, hein.
Ouais, 2028, exactement. Ouais, juin 2028.
Jusqu'en 2028. Donc, il y avait certainement le temps de valoriser encore un petit peu plus ce garçon, certainement. Mais entre les difficultés de la prolongation qui visiblement était grande, les exigences du clan Vaz qui étaient probablement encore plus grandes.
Mais ça, le sait, Fabrice.
Moi, je pense surtout que c'était la possibilité d'avoir 25 millions d'euros bonus.
D'accord.
Qui est une très belle vente ici pour l'OM.
J'y viens, Fabrice. Et la réalité que nous ne connaissons pas, parce que de temps en temps, il y a des comptes à rendre à M. McCourt, parce que je veux bien qu'il soit généreux, mais bon, de temps en temps, une fois qu'il a eu l'aller, il aime bien qu'il y ait quand même le retour, de temps en temps. Il y a aussi la DNCG, et je pense qu'on ne sait pas tout. Peut-être que la manne des 25 millions d'euros de Vaz vont permettre à l'OM d'être un petit peu plus tranquille la prochaine fois qu'ils iront devant le.
Mais très certainement, CG. Jean-Michel, tu as d'autant plus raison que Pablo Longoria avait dit qu'il fallait vendre justement.
On a parlé de Vaz. J'ai l'impression plus exactement que s'il y a une offre intéressante pour Bacola, il prendra le même chemin.
Fabrice?
Totalement. Totalement.
Ah, Bacola aussi.
À suivre. Bacola, fin de contrat 2027, et il y a une grande chance que Bacola parte avant.
Non, mais en fait, il y a plusieurs choses, mais moi, je veux pas croire Alors, bien sûr que le foot et les générations ont changé et le côté passion du football a peut-être est dépassé chez certains et qu'ils voient juste le business et l'argent.
Je parle des joueurs. Mais est-ce que tu es sûr que le joueur a envie de quitter l'OM?
Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est là. Moi, j'ai envie de croire quand même. Je me mets à la place de Robinho Vaz. Je me mets à la place de Bacola. Alors, Bacola, il est pas encore parti. Il est là. Mais les émotions qu'il a vécues quand il est rentré,
d'accord,
dans ce stade-là, c'est son club. Il a été formé dans ce club-là.
Mais Jérôme, comment tu peux réfléchir comme ça quand tu sais que le capitaine du Racing Club de Lens, qui était qualifié pour la Ligue des Champions,
Fofana,
bah oui, a préféré aller faire une pige.
Que de jouer la Ligue des Champions.
Il y a
une différence entre l'Arabie Saoudite et l'Italie. Là on parle de l'AS Roma.
Et puis la différence.
Tu parlais des émotions.
S'il était parti en Arabie Saoudite, je te dirais. Écoute, il y a des offres qu'il peut pas refuser. Il y va, il va prendre de l'oseille et au bout d'un an ou deux ans, comme la plupart, comme Fofana par exemple, il va revenir. D'accord ? Ok, pas de souci. Mais là, on parle de l'AS Roma. Alors, me dites pas que l'AS Roma, avec les difficultés qu'ils ont, d'accord, ils mettent 25 millions, c'est beaucoup d'argent, ouais. Mais en termes de salaire, je suis pas sûr que l'OM pouvait pas. Je te dis pas s'aligner, mais faire un effort s'ils voulaient absolument construire.
Oui, mais ils n'auraient pas eu les 25 millions.
Ah, ils n'auraient pas eu les 25 millions, mais donc on en revient à la même chose.
Ça veut dire que
c'est le business avant tout pour les clubs et que t'as préféré et le joueur peut-être qui part avec le frein à main parce qu'il se dit j'aurais bien voulu rester à Marseille parce que moi je crois à ça. Les gamins Bacola et Vaz, quand ils ont commencé à jouer à l'OM, ils avaient des émotions, l'adrénaline était au max et qu'ils avaient encore envie de gratter du temps de jeu.
Qui est le directeur sportif de la Roma? Frédéric Massara, l'ancien de Rennes, qui était parti.
Un génie, lui.
Voilà,
un génie. Qui a plombé Rennes.
Quel est ton regard sur cette situation alors?
Moi, je trouve ça hyper honteux que Marseille n'ait pas tout fait, en tout cas pour le garder. Parce que comme le dit Jérôme, l'AS Roma financièrement c'est pas très loin de l'OM. L'AS Roma comparativement à l'OM, je parle de l'engouement du Vélodrome, c'est pas du tout comparable. Moi je trouve ça très très honteux et surtout très triste pour le football français c'est qui ces conseillers honnêtement? Je pense que c'est des conseillers financiers et comme tu l'as dit, Jérôme, c'est l'Arabie Saoudite.
Cette histoire, quand même.
C'est pas une question de ça. C'est qu'à un moment donné, si c'est l'Arabie Saoudite, moi, je l'accompagne à l'aéroport, j'habite avec lui si je suis son conseiller. Et lui dire, honnêtement, tu signes 3 ans, tu vas faire ça, ton truc là-bas, à 21, 22 ans, tu reviens et t'auras ton équilibre financier. Faut pas oublier, c'est une carrière financière et professionnelle.
Aucune émotion.
Ce que j'allais revenir. T'es formé dans ce club-là. T'as tout à faire. Dans ce club-là, en plus à l'OM, faut savoir qui sont les attaquants d'aujourd'hui. C'est quand même des attaquants qui sont un peu vieillissants. T'as Aubameyang qui est quand même un peu vieillissant. Ce que je veux dire, c'est que tu peux arriver à prendre rapidement une place et devenir une star de l'OM.
C'est contre la porte.
Et ben tu sais quoi?
C'est qui?
Au club.
Moi, je pense qu'il y a une histoire de. Non mais il y a une.
Moi je suis gamin.
Tu restes à l'OM.
Non mais des fois on en connaît.
C'est une grande boîte anglaise. Ça s'appelle Wasserman. Mais moi je pense que c'est un tour de circonstance aussi avec l'OM qui a pu trouver 25 millions.
Bon ça va.
Il s'imaginait peut-être pas que ça coûterait, qu'il pourrait le vendre aussi cher.
Grand merci à Fabrice. Toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr.
Merci, bravo Fabrice, salut les gars.
Et dans un instant, le quiz tous contre Rotten. Et oui, Louis Gerbier est là pour Jérôme face à la doublette.
J'espère qu'il sera meilleur aujourd'hui.
Sa vie dans tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC, on est là, on est bien, les 10 dernières minutes. Rotten sans flamme avec le quiz de Louis Gerbier, c'est maintenant. C'est là que ça se passe avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan qui ont formé une belle équipe. Benoît Boutron sera là pour arbitrer tout ça. 2 auditeurs, un super cadeau à faire gagner, on y va.
RMC,
tous contre Roten.
Louis Javier est là, salut Louis.
Salut l'équipe.
Ah, ravi de te retrouver.
Eh ben,
alors,
également.
Vont s'affronter ce soir pour la carte cadeau de 100€ à valoir chez Maison Scarlett. Yannick et Noah.
Et Noah.
Salut à vous deux. Saga Africa, évidemment. Yannick, tu veux jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Jérôme.
Yannick avec Jérôme, Noah compris, avec le reste du monde.
Ben bon courage Noah.
On est en train de regarder les stats de Jérôme et de Steve à Caen. Ben, on a des surprises. On vous en parlera plus tard. Allez, c'est parti. Non.
Ou peut-être même jamais, au vu des surprises.
Peut-être même jamais.
On va faire le thème Coupe de France ce soir, parce que c'est la Coupe de France.
Ah oui,
c'est dingue, c'est dingue. Et vous avez Jérôme, t'es fier d'être supporter du plus grand club du monde? Parce que depuis hier, le Paris Saint-Germain, c'est le plus grand club du monde. Parce que ils ont tellement respecté Roland Courbis qu'ils ont préféré perdre ce jour-là.
C'est vrai.
Et ça, c'est beau.
Ça, c'est exactement. Vrai.
Et ça, c'est vrai.
Et pour Roland.
Exactement. Je ne vois que
le dernier qui avait gagné.
Et c'était le dernier avec Montpellier, évidemment, ouais. Évidemment. Allez, Coupe de France. Dernière élimination en Coupe de France du PSG avant hier soir. C'était en 2023, huitième de finale contre l'OM. But de Sanchez et Malinowski.
Oh.
Mais qui avait mis le but parisien? 2023.
Oh.
On va citer
Mbappé, non.
C'est pas un buteur.
Ramos.
Ah oui.
Oui, Ramos, papa. Mais alors
1-0
Sergio
pour le reste du monde. Alors Louis, je me permets Sergio. Juste une digression, parce qu'on a la photo sur rmcsport.fr. Hommage des supporters marseillais à Dornano pour coach Courbis.
Ah, c'est beau.
Avec une banderole qui est déployée. Repose en paix Roland, ton passage marseillais restera à jamais gravé. D'ailleurs on rappelle qu'il y aura une minute d'applaudissement ce soir et que les joueurs marseillais porteront un brassard noir en hommage à Roland Courbis.
J'étais assez surpris d'ailleurs qu'il n'y ait rien eu, mais bref. Question Larquet.
26-15, code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent.
France avant 70.
Gerbier, t'es un truand.
En
1947.
En 1988.
Il était coach déjà.
En 1988, quel est l'unique club de l'histoire qui remporte la Coupe de France sans rencontrer un seul club de division 1?
Nantes.
Metz. Oh là là.
Mais oui papa, je me rappelle, j'ai toute l'histoire de la Coupe de France dans la tête.
2-0 pour le reste du monde.
Crac. Allez, question
flash. Jérôme, mets-toi dans ton quiz.
Question flash.
T'inquiète pas, il va avoir la routine là tout à l'heure. Lui, tu sais quoi? Mais je le sais, je le connais. Non, là, il nous laisse faire un 5-0.
Non, mais
il va tirer la routine.
La routine, la routine.
Ouais, ouais, bah, dernier point gagnant. Qui c'est qui a marqué un but avec Monaco lors de la...
Ah mais et des mèches blondes.
Tu fous pas de notre gueule en plus.
Il y a déjà vu le
question flash. Quel est le
c'est fou ça.
Quel est le record de victoire pour un joueur en Coupe de France?
Marquinhos.
Le milieu de.
C'est pas deux points ça.
Non.
Normal pas toi aussi. Toi t'as vu ce pouce.
Oui mais c'était la réponse.
C'est
quand.
Ouais mais c'est bon.
C'est bon.
Con. Gagne une seule chose.
Ok. Oui.
On voulait pas te le dire. On va tester un truc sur
le joueur de l'équipe de Roten Sans Flamme. Jamais remporté l'équipe de France. Steve Savidan. Steve Savidan. Je sais. Ça te fait rire ça.
Allez, sur le palmarès. Sur le palmarès.
Pas de Ligue des Champions, t'as dit, il l'a pas joué.
T'inquiète. Sur le palmarès, toujours, vous allez devoir trouver l'intrus. Un peu de concentration.
Steve Savidan.
Vas-y, oui. Vous trouvez l'intrus. Rennes, Nice, Monaco, Strasbourg.
Strasbourg.
C'est sur le palmarès de la Coupe de France, là, la question.
Rennes, Nice, Monaco, Strasbourg. Pourquoi Strasbourg?
Eh ben, déjà, c'est. Peut-être pas Strasbourg.
Qui est l'intrus?
Nice.
Monaco. Quoi alors?
Monaco, ils ont plus de titres.
Magnifique. Ils ont gagné 5 Coupes de France. Oh. Les autres en ont gagné 3. Ouais, c'était un peu chaud.
De partout. Entre Jérôme et le reste du monde, entre Yannick et Noah.
Yannick, Noah.
Les boulets.
Okay. Merci à Max pour ça.
Ouais, je vois bien que t'arrives de Châteauroux, toi. Oh là là, je suis... ouais. Tiens, j'y suis passé la semaine dernière. Tiens, je sais que c'est Roten sans flamme. Je suis à la Vierzon.
On je voulais le mettre dans Roten sans fou, mais là, on s'en bat les couilles.
Non, on s'en fiche. Non, là, c'est carton jaune.
Yannick,
on s'en moque. On s'en moque.
Yannick Noah. Quel club on va pas réussir. Quel club nordiste perd contre le FC Nantes en 2000?
Lille, Calais.
Oh, qui a dit Calais?
bravo.
Noah. Et bah, Noah redonne l'avantage au reste du monde. 3-2.
3-2.
Bah, une question GG.
C'est cette France qui vit chier, plus pour les vacances, uniquement les vacances, les jours de repos, les RTT. Bah,
si vous faites pas d'audience, t'es obligé de faire.
La question GG.
Très bonnes audiences, GG.
Bien sûr. Non, mais attends, audience. Si vous galérez sur les audiences, t'es obligé de nous le mettre tous les jours.
On embrasse Géraud, l'agriculteur.
Ah oui.
Qui nous écoute dans son tracteur.
Ouais. Il est tout le temps dans ce. Faut savoir, il est tout le temps.
Quel monde de mytho.
C'est vrai.
Si, là,
dans le. Et remarque, il était chez les GG, il est venu en tracteur à Paris.
Ouais, voilà.
Mais non, mais il se gare là devant.
Allez, la.
La question hors sport.
À côté de ta Ferrari, devant ça finit
bizarre, des armes. Allez, la question hors sport. Exactement. Il y a Bayeux-Marseille ce soir. Ouais. Qui a prononcé un discours historique à Bayeux qui influence toujours notre politique actuelle?
J'ai entendu. Oh là, Jean-Michel, il est un
général. Ben oui, c'était facile pour le. Il l'a vu naître, donc c'était facile.
Ouais, mais là, c'est un ami. Ouais.
Mais qui les
sont? C'est un ami d'école.
C'est un ami.
La routine.
La rondelle. La bonne réponse vaut 3 points.
Ouais.
C'est un joueur.
Il y a qu'un seul truc sur la rondelle.
C'est fou, c'est Steve, donc une balle
Steve,
de match.
Steve et Jean-Mi, je te jure, tu vois la roue, elle a failli basculer de l'autre côté.
Vas-y, envoie-la-moi en photo, tiens, envoie-la-moi en photo.
Le hasard fait bien.
Je vais te le faire.
Allez, allons-y.
Ils sont jaloux sur M6 avec Eric Antoine, là. Ils disent.
Et je la diffuserai sur mes réseaux. Vas-y, envoie-la-moi, je la diffuse sur mes réseaux.
Évidemment, on va finir sur une question savine.
Ah. Bah, c'est pas forcément Florichon, un peu pour notre Ligue 1.
C'est quoi la question, Savidan déjà?
Bah, t'emmerdes pas, je sais.
En fait, je vais citer tous les clubs de la carrière d'un joueur qui est passé que par des clubs pas hyper Florichon.
Qu'est-ce qu'il a
un rapport avec la Coupe de France?
On cherche un joueur.
Pas forcément.
Ah bah non, parce qu'il l'a pas gagné, Steve. On cherche un joueur éliminé ce week-end.
Ah.
Il jouait avec Sochaux.
Ah.
Allez, on y va. Sochaux, Bastia, Lorient. Lorient encore.
Tim Ernest.
Oui.
Ça, je l'ai. Je viens de le sortir. Mais parce qu'il y a le délai. Il y a le délai. Je viens de le sortir en plus.
Incroyable.
Comment il s'appelle?
Première victoire de 2026.
Ah, incroyable.
Pébernès,
tout à fait. Bravo.
Pébernès, grand défenseur.
Ah, incroyable. Et victoire de Yannick qui remporte ce match.
Bisous, Jean-Mi. Bisous, Stevie.
Envoie-moi la photo.
Je te l'envoie.
La marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Merci à Louis Jarbier pour ce quiz de grande qualité. Merci à Jean-Michel Larquet, Steve Savidan.
Ouais, merci, un grand moment.
Un instant, l'after live, la fin des 16e de finale de la Coupe de France à Dornano avec Jean-Louis Tour, la voix du foot, autour de ce Bayeux Olympique de Marseille. Une soirée hommage encore à Coach Corbis.
Et on se retrouve demain, Benoît. Merci Jean-Mi, merci Stevie. On a passé un bon moment, 2 heures de Rotten sans flamme, c'est magnifique. Abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme, téléchargez le podcast, vous avez accès à tout. Et demain à 18h, on est de retour comme tous les jours, du lundi au vendredi. Rotten sans flamme, ça n'arrête jamais, de 18h à 20h. Bisous, bonne soirée, à demain.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.